Ok, let's go, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Écoutez, c'est parti pour la précession. Hein. C'est chaud. J'ai des invités autour de la table qui sont déjà en train de rigoler parce que je suis un animateur de folie.
Ah ouais, ça a été vérifié maintes et maintes fois, ça déjà. Hein.
Du coup, je vais introduire les riders. On l'appelle le Yvon Labarthe français. Il n'a pas vu l'hiver depuis 2 ans. Il est actuellement très mal avec sa cheville. C'est Ramon.
Merci Mathis, ça
On
fait
l'applaudit.
plaisir.
On l'appelle le petit lutin de la planche à roulettes, le photographe de photo finish officiel de la fédération, le kicker de ces dames et l'adorateur d'Alpha One. J'ai nommé Elton.
Merci Benji, ça fait plaisir d'être là.
D'ailleurs, j'ai envie de dire un petit truc parce que t'es le seul qui est pas dans le 981 gang aujourd'hui. Donc ça va être un podcast uniquement là-dessus. Et surtout Nico.
Et merde.
On l'appelle Jacques ou Petit prince du bitume selon France 3, mais aussi. Mais en tout cas, mets des chaussures enculées de babos, c'est Gaëtan Ricord. Merci pour le 136. Un des fameux. Qui m'a coupé là?
Attends, j'ai un truc entre les dents, ça va se voir au micro.
Parle bien dans le micro d'ailleurs, toi.
Parle mieux, Gaëtan.
C'est l'un des fondateurs du fameux collectif Fucking French Monkey, un visionnaire de singes qui éjacule, et tout ça c'est tarpin drôle, c'est Lucas Poulain.
Merci, j'adore l'humour.
Putain, bah première appréciation qui se passe après une session du coup au final.
Ah c'est beau, bravo.
Putain ouais. Ça,
et quelle session quand même, on peut
quelle
dire.
Session, ça bien shred le spot de Cassie, c'est
oui.
ça hein.
Ouais. Oui, c'est ça.
Un spot avec un bitume très smooth.
Noir très glissant.
Très glissant avec. Bah maintenant il est plus très noir du coup avec toutes les Urethan Burner qui. Enfin non, les.
Les Tain Lines Armin que Gaëtan
paint.
A laissé avec
les
ses squats.
Hard in the paint.
Hasardeux.
Et ouais, hein, putain, ça a bien retourné le spot avec Scott Mano qui est avec nous aussi. Qui est là.
Il est là.
Il est là, il prendra part. Il prendra part dans des jeux. Voilà. Du coup, Marseille, c'est quoi Marseille? C'est la bonne mère. C'est
Marseille, c'est bébé.
C'est une belle ville pour bien zoner au final.
Marseille, c'est le plus grand village de France. Ce qui est bien, c'est qu'on vient tous de campagne au final et on peut vivre comme à la campagne, sortir torse nu, en tongs,
enfin,
en caleçon, faire un peu du skate où on veut, faire la fête comme dans un village.
Putain,
sauf qui a 2 millions d'habitants. Du coup, c'est plaisant pour tout ce qu'on peut faire quand il y a 2 millions d'habitants, comme les soirées et rencontrer des skaters à une époque où il y avait des jeunes qui faisaient du skate. Parce que quand on rencontre des skaters plus vieux que nous.
Ouais, c'est un peu eux qui nous ont mis au DH. Ouais. C'était Lasgum, c'était une des premières assos de skate DH au final.
Lasgum ?
Ouais. Ouais, okay. Ouais, t'es trop jeune, t'étais pas né, mais dans les années 2000, ouais, il y avait Lasgom qui organisait les premiers freerides, ça shred des forts, ça drop foutait fort.
Il y avait quoi comme freeride à l'époque ici?
Aucune idée.
Il y avait une course à la route du feu à côté de l'ESPI.
Ouais, un peu genre spot de Cassis, mais moins bien, tu vois, genre vraiment, mais ça donnait. Non, mais Marseille, je pense que c'est un des plus beaux mélanges de toutes les cultures de France,
ouais,
au final.
De fou. Hein.
Je pense que ça marche super bien et ça se sent, il n'y a pas de jugement, c'est un mélange assez uniforme, ouais. Tel un pastis et son eau, finalement.
Oh, waouh, ça y est, ça balance des refs Marseille, avec la bonne mère qui vous veille à l'eau, là.
Ah, voilà.
À le stade du Vélodrome, sujet 1. Mm. Ouais.
Mais du coup, je pense que ça se mêle bien au milieu du skateboard Marseille, dans le sens où justement on se mélange tous et puis il y a ce truc un peu flambeur et tout qu'on a de vouloir se mettre en avant comme tous les Marseillais avec le vélodrome, on parle fort, on dit beaucoup de choses mais au final on est très gentil.
On exagère sur les vitesses des runs aussi.
Speed up. Et vous avez quoi comme freeride à côté en vrai? C'est que des trucs qui tarpins loin au final.
Rien, parce
je vais,
en fait,
je vais mettre des tarpins parce que on
ouais,
est là,
ouais,
toi,
c'est
mais
le sud.
Ouais, c'est clair.
En vrai, il n'y a pas d'event dans le sud parce que je pense qu'on est trop des zonards pour en organiser.
Ouais.
Du coup, on est un peu obligé de bouger aux events des autres.
Non, en vrai, ouais, le plus proche à l'époque, c'était la Lombarde.
Oh yeah.
Mais Benji a le magnifique t-shirt Bombarde d'ailleurs. Ouais,
celui où je
de
me suis fait le
dernière
ménisque.
Édition.
Où je me suis fait le putain de ménisque là-bas d'ailleurs.
Allez, c'est cadeau. Mais sinon, c'est vrai qu'on bouge souvent dans les Alpes. Après, bon, on n'a pas besoin de freeride au final puisqu'on peut aller faire freeride à l'Isoire ou dans les Alpes du Sud. Mais ça manque, c'est vrai, ouais. Peut-être quand on sera tous blessés ou qu'on arrêtera de skater, on fera des freerides.
Bah ouais, mais après, la vie c'est dur, c'est pas demi-molle. Hein. VLD, le grand.
Merci.
C'est quoi comme vous avez quoi comme du coup petit spot, enfin les spots aux alentours au final, c'est des trucs assez vénères ou c'est des trucs chill
On va poser des questions tout le temps là.
On a principalement dans la région, en vrai on a beaucoup de petits spots au final, un peu comme on a fait aujourd'hui à Cassis. C'est des routes pas larges qui drop de dingue.
Ouais.
Avec beaucoup de virages, des runs assez courts. Donc c'est vrai qu'on n'a pas des top speed énormes, on est autour des 60 en général, mais c'est des routes qui sont assez impressionnantes et ouais. Bah on peut les bloquer surtout, c'est ça les rustines. Là on a l'Ambesque, rustine c'est 1h30, mais bon c'est le meilleur spot de la région quand même, c'est chez Ramon. Et sinon on a l'Ambesque qui est à 40 minutes, mais ouais c'est des petits spots Saint-Zac, un peu fast qui drop comme ce qu'on et Saint-Zac, ouais. Des petites routes quoi.
Saint-Zac.
Ouais le S.
Saint-Zachary. Ah, surtout qu'il fait beau toute l'année, donc ça aide quand même pas mal pour skater l'hiver, quoi.
Ouais, j'avoue, c'est ça aussi, c'est pratique de... Vous skatez de camp à camp, du coup, au final, genre... Fin avril à...
Non, pff,
janvier, quoi.
Tout le temps, en vrai.
Ouais, tout le temps, hein. Il pleut presque jamais. On skate surtout quand Gaëtan, il est motivé, quoi. Il pleut moins que la perte de motivation de Gaëtan, je pense.
Non mais c'est le bon côté, même si on n'a pas des super bons spots, bah du coup on peut les skater pendant l'hiver, pendant que rien d'être skatable et on n'est pas si loin des Alpes, donc au final pendant l'été on va skater les freerides et on va skater les Alpes comme tout le monde, parce que c'est mieux que le sud.
Les Alpes comme point de rassemblement au final. Là, voilà.
Ouais, bah d'ailleurs il y a un freeride ce week-end je crois à l'Isoire limite.
Ah putain.
Ou à la Bonnette.
Il y a du monde là.
Ouais. Ah c'est l'autoroute.
Genre ils sont beaucoup de monde, ouais. 8.
Genre, je pense plus.
Oui, beaucoup plus.
Je pense 9. Qu'il y avait 8 personnes à la Bonnette il y a 2 jours qui rejoignent genre 10 personnes qui étaient à l'Isoard. Du coup, on est pas loin. On est sur la trentaine de personnes, je pense, qui vont passer pendant le week-end à l'Isoard. Et on est heureux de pas pouvoir skater.
Toujours le smile. Ouais, bah écoutez, en plus, enfin, au final, on parle de Marseille et tout, mais il y a toujours cette personne qui est exclue. C'est Elton qui est ni du 980 gang, ni de Marseille au final.
Je suis un entre-deux-mondes, un peu un hybride.
C'est le Stranger Thing du longboard.
J'essaie de prendre le meilleur des deux mondes, tu vois. Mais après, comme tu le disais, si on inclut le 06 dans le sud, il y a aussi des spots super intéressants. On est quand même près d'une Lombarde, d'une Bonnette. Une Lombarde d'ailleurs qui était le spot du Bombard. Voilà. Et ouais, hein, Nice à ne pas exclure, attention, ils vont tous venir en vacances chez moi bientôt.
Ça arrive fort.
Non mais c'est vrai qu'on a, la connexion en fait, enfin, c'est pas un groupe mais on a un groupe Messenger où on est tous dessus et au final ben, Marseille, Nice, toute la région en fait on skate tout le temps ensemble au final. On bouge, ça bouge, vous bougez, nous bougeons.
Ok. Mais ouais, bah écoutez. Allô ? Ouais, oui. Je capte pas là. Allô, le plug. Vas-y, on va faire un petit jeu en vrai. Hein. Bah, c'est un petit jeu, c'est assez spé du coup sur vous au final. En fait, ça va être en fait des bruitages qu'on va trouver sur des vidéos et va falloir que vous trouviez de quelle vidéo ça sort.
Bon, bordel.
Je vais juste mettre un petit peu de musique pour voir si mon Bluetooth marche. Ça va être dinguerie. Ok, vous êtes chaud, on est là. Ouais.
On est là.
Mm-hmm. Ok, freestyle 1, Elton. Ok, ça part. Il faut que je retrouve. Nickel. C'est pas mal ça aussi. Ok, tout le monde a ses écouteurs.
On est là, on est en place.
Vous êtes chaud. On va partir sur le premier.
C'est des bruitages.
Je le repasse.
Moi je sais que c'est
Easy Crew.
C'est, ouais, c'est Easy Crew parce que je reconnais, je reconnais la musique.
Je sais que c'est Easy Crew aussi.
Voilà, du coup c'est Easy Crew.
Mais du coup ça doit être moi.
Et c'est ça, c'est toi. Looking for the perfect spot.
Wow. Bon rappel. une de mes premières réalisations incroyable, hein, vraiment. Je tiens à le dire. Je crois que j'avais eu un interview et tout pour un magazine que personne ne lit. Et
Concrete Wave.
Non, pire. Genre
La Londe les morts.
Ouais.
Chasse et pêche magazine La Londe les morts.
Je crois que c'était même un magazine breton.
Donc, ah oui.
Pour dire que j'allais chercher loin, j'allais chercher dans mes origines même pour avoir des interviews. Et du coup, c'était ridicule niveau skateboardistique, mais on pouvait voir une envie de faire rire et de réaliser des trucs un peu poussés. Mais c'est de la merde, hein, vraiment. Je conseille d'aller le voir. Ça vaut vraiment le coup. Si je me rappelle bien, je suis en débardeur. J'ai un putain de survêt super large.
Et 10 kilos d'en trop.
Ouais, même 15 peut-être.
Ouais, parce que c'est de cette époque que le nom Ramon vient, hein, finalement. C'est les gros jambons, quoi, à la place des jambes, finalement.
C'était quelle année, au final, cette vidéo, Ramon?
Mais cette vidéo, ce qui est sûr, c'est que je ne connaissais pas Lucas, pas Elton, et je connaissais peut-être Gaëtan, ouais. Mais c'est même pas sûr, hein. Franchement, c'était...
Je crois que c'est l'époque des sessions à Valcro.
Mais non, ça, c'est même pas à Valcro, ça.
Ouais, mais c'est cette époque-là, je crois.
Ouais, peut-être que je te connaissais à peine, mais c'est dans ma première année de skateboard, et je m'étais filmé tout seul comme un grand, avec un trépied et des plans arrêtés derrière chez moi, et voilà. Hein,
du coup, c'est il y a combien de temps, tu penses?
Ça doit faire 8 ans.
9 ans.
9 ans. Mais c'est vraiment ma première année de longboard du coup.
Ça fait 10 ans qu'on est dans cette shit. Hein. Putain, on n'arrête pas. Hein.
Ouais, Scott, ça fait 3 ans, il est meilleur que nous. Frank Scott.
Ok, deuxième extrait. Passe.
C'est facile pour nous.
Moi, je me demande, c'est pas au Ventoux? Non, c'est pas au Ventoux.
Non, moi, je sais ce que c'est, mais parce que c'est obligé que je le sache, vu que c'est un montage que j'ai fait, du coup, je l'ai vu passer plein de fois, mais... Lucas, c'est sûr que tu l'as vu plein de fois aussi. Gaëtan aussi, mais peut-être un peu moins, parce qu'il regarde moins les vidéos. Même quand il est dedans. Mais
Gaëtan, ouais, moi, je les partage, abuse pas.
Hein?
Faut que t'écoutes les premiers bruits au début, ça va te rappeler la vidéo.
J'en sais rien, mec.
C'est toi qui tombes sur Drives.
Ah putain, c'est le début. La première chute.
C'est la première chute.
L'ambesque.
Et puis après.
Non, Drives, pas pull-up. Sur Drives, la vidéo de la Réunion.
C'est à la Réunion, ouais. Ouais, c'est la première chute, mec, elle était hardcore. C'était au volcan, on devait filmer avec Ramon. C'est un raw run, ouais. Non, c'est à la GoPro.
Non, c'était le premier run de Lucas. Ouais. On s'était mis une déter pour faire une grosse journée filming sur le volcan à La Réunion. Du coup, sur le volcan, on avait 3 spots qu'on voulait filmer. Et on arrive, c'est dans un nuage. Et du coup, c'est dans un nuage, mais le spot est sec. Je fais un run avec Lucien. Et ensuite, et Lucas a drivé le premier run. Et ensuite, Lucas fait le run. Moi, je reste en haut du spot à préparer la ventouse et je devais aller les récupérer après.
Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, on part avec Lulu. Et premier appui, donc c'est un spot chill, tu vois, ça va à 60. Mais premier appui, on descend tranquille et d'un coup, en fait, je perds mes roues. Et du coup, je capte que la route est trempée. Et j'ai fait tout droit dans le caniveau. En plus, à La Réunion, c'est bien des caniveaux genre d'un mètre en béton. Et je drop direct dans le caniveau, dos en arrière. Du coup, je tape le dos, la tête. Je fais à moitié un petit trauma parce que genre je me relève et genre j'arrive pas à marcher. Du coup, je me rallonge, reste un peu par terre. Et je pense que ça a bien duré 10 minutes allongé par terre en mode ouais, ça va aller et tout. Et en fait, c'était un peu la journée noire parce qu'on a fait, comme il disait Ramon, on a fait trois spots du volcan parce que la route elle est gigantesque. Et genre à chaque spot, je me mettais des chutes extrêmes. Et à chaque fois, je me relevais. Là, je crois que sur cette chute, je me suis pété le petit doigt.
Ouais, le petit doigt de la main sur la première chute. Et vrai trauma, parce que moi, j'ai bien mis 10 minutes à préparer la ventouse. Et quand je suis descendu en voiture, il était encore allongé au bord de la route. Après, il s'est réallongé en haut. Et puis, il a dit, bon, on va voir. Peut-être que je vais pouvoir me chauffer à filmer des runs en voiture. Et au final... il se chauffe à reskater un roran, il retombe. et ensuite on va manger et il se déterre à continuer et on refait un spot et il retombe.
Comme
et,
un grand.
Et toutes les chutes du coup du montage sont
dedans, c'est sont all dedans. Inclusive. Mais on a quand même filmé de ouf au final après ça, même si j'étais dans le dur. En fait, je grabais avec le petit doigt en l'air les frontes à l'anglaise, tu vois. Stylé.
Moi, je suis pété le petit doigt aussi une fois. Et genre après, genre je suis rentré en scooter et tout, j'avais cher mal à tous les deux dan et tout.
On dit pendant... ici.
Ah putain, excuse-moi, j'avais cher mal.
Et même si je peux, si je me souviens bien, après avec le petit doigt pété, on est allé faire une soirée, on est allé découvrir la pousse à La Réunion. Donc c'est des courses de voiture.
De nuit.
Et du coup, Lucas fait une course de voiture avec le petit doigt pété, je viens de me rendre compte.
Avec la voiture de Locke, mec, 60 chevaux là. C'est genre des courses, c'est des deux fois deux voies, c'est des drag race un peu.
Ouais, ouais.
En fait, tous les vendredis soirs à La Réunion, c'est genre à moitié toléré. T'arrives sur le rond-point, t'attends genre une autre voiture, tu vois, tu te gares au début de la ligne droite, il y a quelqu'un qui se met à côté de nous, du coup, avec Jordan. Tu baisses la vitre, tu mets le départ et après tu mets plein gaz. Bon, on était premier, genre la première seconde, et après on se faisait fumer.
La fameuse Ford Focus qu'on a retrouvée le week-end d'après et qui nous a fumé de la même manière.
Bon, allez, deuxième extrait du coup.
Let's go.
Tout le monde entend.
Oh non, c'est putain de froid. Voilà, c'est bon. C'est bon.
J'ai pas encore fait la teub. Ça, c'était Flo, on entendait Flo en fond.
Moi j'ai entendu Elton crier, je sais pas d'où ça vient, mais Elton est en train de souffrir. Il y a peut-être un peu la voix de Tristan Fort et bien sûr la voix de Flo.
Tu peux remettre ?
Donc, j'imagine ouais. Qu'il y a une pizza.
Je vais remettre.
Je suis dans cette histoire malheureusement, je m'entends crier. Moi j'ai ma piste, évidemment
c'est
vu que je suis acteur. Il y a du badagou dans l'histoire, il y a du badagou, mais vraiment ça remonte à un trip très très lointain avec une équipe très très aléatoire. Mais si vous trouvez, chapeau les gars, parce que franchement, il y a du Wiga, Tristan Fort, Seb Tournissac, la légende qu'on embrasse. On avait pris le bateau.
Ah, Corsica, c'est la ah c'est cette superbe vidéo. Le teaser du coup.
C'est bon.
Ça, mets les deux mains, merci.
Merci Flo pour ta dédication.
Et donc c'était bien Corsica Tour hein, sur Vimeo, sacrée vidéo.
Aïe aïe aïe, comme Ramon il disait tout à l'heure, moi c'est une de mes premières productions à moi.
Pardon. Première production ?
Ouais je dirais hein, pour le longboard, première vidéo pour Wiga Skateboard en Corse avec une équipe survitaminée.
C'est une vidéo de qualité en vrai hein.
Je te remercie. Mais il y a peut-être que toi qui le penses, plus que moi.
Ou qui a vu la vidéo.
Putain, faut que je le. Ah voilà, non, c'est ça. Allez, on écoute un autre extrait.
J'apprécie à moitié, franchement, ce qui vient de se passer là.
Très bien, Donovan.
Oui, gars. J'apprécie à moitié, franchement, ce qui vient de se passer là.
Très bien, Donovan.
Oui, gars.
Moi, j'ai revu la vidéo et je l'ai montré à Scott hier, cette vidéo, du coup. Je sais exactement c'est quelle vidéo.
Moi, cet extrait me fait beaucoup rire, mais j'en ai aucune idée.
c'est un montage d'Elton. Quand il y a des petits bruitages comme ça, c'est toujours le cas.
Ouais. Et bah, je connais l'extrait, c'est Planet Rap.
C'est Fred de Sky, ça. Qu'on embrasse.
Ouais. C'est un run d'Elton et moi.
Ah, putain.
Où est-ce qu'il était, du coup?
Tic-tac.
Oh, il l'a. Tu l'as. Putain, mais juste le spot.
Mais je l'ai pas filmé, non ? Non,
non, non, c'est Wiga.
C'était Wiga qui l'a filmé.
C'était Wiga et moi j'étais juste derrière d'ailleurs.
Si. Oh.
Et je lui ai mis des poussettes pour qu'il vous rattrape à chaque fois.
Exactement, je me rappelle de ça.
Et
sauveur.
On m'a pas SO dans la description, hein, moi je le dis.
Oh,
ça claque dans les crédits, je suis désolé, Benji.
Mais ouais, c'est ça, c'est gros run alemanique avec les deux gars.
Ah oui, c'est ça, mais je l'avais, tic et tac, mais je me rappelais plus quel spot.
C'est vrai que pendant le run, je tombe sur le cul et je reste sur mon skate et tout, il se passe pas mal de choses. Un niveau aléatoire, mais qui rend le run tchatcheur.
Qui laisse déceler finalement une très bonne capacité d'adaptation.
Le mode lézard était activé.
Non, il faut dire que je rentre dans Ramon, presque je monte sur sa board et puis je reviens sur la mienne pendant le run et je le fais pas tomber, du coup, c'était carré.
Ça fait plaisir.
Pardon. Ok, encore un.
Oh,
oh. Encore un petit. Un petit flying string.
Je la remets.
Gaëtan, s'il te plaît, fais preuve d'un peu d'envie, de capacité d'être dans ce podcast.
Non, mais en fait, je pensais avoir une idée et Ramon, il m'a regardé en mode tu l'as, c'est obligé. Et genre, l'idée que j'avais l'impression que c'était une idée de génie, tu vois, c'était un truc qui me concernait pas du tout. Du coup, apparemment, ça me concerne. Du coup, je sais pas ce que c'est.
Moi, je vois plus où c'est. Je sais, je me rappelle avoir dit cette phrase. Je crois que je l'ai dit à Gaëtan, du coup, genre, je dois me retourner en mode ouais, gros, c'est le bordel sur le spot, mais. Quel spot?
Je vais la remettre.
Ah,
je vais la remettre.
Moi, je peux vous donner des indices.
Donc là, il y a un slide déjà. Ça, ça va.
Très long d'ailleurs. Ça,
c'est un front. Il a.
Donc on découvre un spot, je pense.
Donc toi, tu l'avais déjà fait vu que t'es en train de l'informer que ça va être ça du long.
Moi, ça me fait penser à Anaconda, mais on n'a pas mis de.
Ah, puis j'avais ce qu'il était avant toi.
Vous êtes sur la bonne piste en tout cas.
C'est à Tenerife. Géographiquement.
C'est à Tenerife.
C'est à Tenerife.
Alors ça doit être le premier qu'on a fait, celui qui va vite là.
C'est une vidéo qui est sur YouTube aussi, les gars, faut se dire. Ah, alors, vous n'avez pas beaucoup de vidéos sur YouTube.
Ah, ouais. C'est bon, je l'ai. Je me rappelle plus du nom, mais c'est celui où il y avait grave de caisses avec les.
Pour retrouver le nom, tu peux penser à Gaëtan en soirée.
Jacques.
Non.
Ah non, le masque de fer.
C'était un masque.
C'est un masque, c'est ça.
Ah,
ouais.
Ah oui.
Ah, il se réveille.
Oh, la petite pub.
Ah, pas de musique. Non, mais c'est bien.
Donc vous l'avez ou pas?
Ah, du coup, il a dit masque, ouais.
Ok. Bah, j'en sais rien. C'est
Un spot des plus incroyables que j'ai fait, on va dire, en termes de tout. Parce que skateboardistiquement, il est incroyable, même s'il est très particulier, parce que ça glisse de ouf, c'est super pentu, etc. Et puis, on peut pas croiser de voiture, du coup, on s'arrêtait quand on faisait les runs. Mais aussi, niveau visuel, c'était...
On a surtout pu le skater grâce au Covid, hein, parce qu'au final, moi, pour être allé à Tenerife avant, de base, il y a des autobus, il y a des touristes partout, il y a des 4x4 de safari... De base, c'est un skatable complet. Ouais. Là, il y avait juste personne. On pouvait le skater, du coup.
En comme plus, le Covid. Merci le Covid. Bah, en vrai, on a fait grave de vidéos grâce au Covid. Ouais. Mais je dis à Gaëtan, c'est comme ça tout du long. Parce qu'en fait, on fait genre le premier slide et il est en mode oh, mais ça glisse.
Ça surglissait à mort.
Et dans tous les sens, tu dois faire genre 30 slides, je pense, pendant le run. Parce qu'il y a des appuis dans tous les sens. Mais ça slidait trop bien. Ouais.
Et d'ailleurs, ce jour-là, on a eu de la chance parce qu'on a pu faire le spot d'abord en plein soleil sur la vidéo que vous avez vue. Et ensuite, on est retourné en fin de journée pour refaire d'autres runs. Et le spot était entièrement dans les nuages, la limite de l'orage, c'était n'importe quoi.
Ça
pleuvait, ça goûtait, ouais. Et à ce moment-là, je dois dire qu'il y a un rerun de Lucas qui existe, mais pas pour tout de suite.
Vous ne le verrez pas.
Qui est incroyable. On a mis la Fiat 500 en Y. Merci à la location de Tenerife qui est très très peu regardante.
Je me demande si un jour ils vont capter que c'est leur voiture de log dans les vidéos. Quoi. Je me demande si un jour ça va nous retomber dessus cette histoire. Parce que quand même à chaque voyage on trace des voitures pour rien.
Ouais, désolé pour les inters où ça frotte, les pneus usés, c'est pas nous.
La Mazda qui a plus de batterie aussi.
Voilà. C'est vrai qu'on trash souvent quand même pas mal des voitures de log.
D'ailleurs, la voiture de log de la Californie, en 6 jours, a eu sa première marque parce que je me suis pris une bonne boîte et j'étais énervé. Du coup, j'ai voulu mettre un coup de poing comme un homme fort dans la carrosserie de la voiture. Et du coup, il y avait mes 4 phalanges au moment où je l'ai rendu qui étaient toujours dans la carrosserie de la voiture.
Et t'as fait une marche arrière dans un muret en Norvège aussi.
Oh oui, beaucoup
pas d'oublier celle-là.
On va faire un podcast spécial voiture de loc et
ça a l'air super bien.
Je pense que ça peut être pas mal.
Et on a jamais rien payé. Hein.
Ouais, ça
jamais. Mais des même à Majorque, tout premier trip, Karama, on a un trou de cigarette. Alors personne ne fume dans l'équipe, hein, mais un trou de cigarette qu'on a rempli de scotch, qu'on a peint avec du feutre. Et c'est passé.
C'est passé crame. Encore un extrait.
Crame. Non,
C'est en Normandie, on dit crame. La bonne crame. Encore un extrait.
Ah, moi je l'ai.
Moi je vois bien la vieille vidéo de toi avec Faya.
Non mais s'il y a que Lucas qui l'a déjà, c'est que c'est FFM.
Je pense que c'est un vieux truc avec Faya.
Ah, c'est une sacrée vidéo, les gars.
Où y a... Un truc genre ou de la rue parallèle ou du ex-centre-ville.
Est-ce que ce serait pas des run GoPro au milieu de ex sur une voie de bus?
Ah non, on est plus tard que ça, beaucoup plus tard que ça. On est en 2016.
D'ailleurs, c'est quoi c'est... T'en as encore des vidéos sur YouTube de ça?
Des
GoPro.
Ah oui, il y en a. Y a...
Tu peux pas reconnaître Lucas sur les vidéos, c'est pas
parce
le même.
Avec les cheveux longs, chemise à carreaux sur FFM Skateboard, c'est. Allez voir, il y a.
En fait,
a
tu les perles. As vus, mais c'était Lucas, oui.
Non mais ouais, mais parce que j'ai regardé sur FFM, j'ai pas vu.
Ah si, normalement il okay. y en a. Les premières sont hard.
Ah mais si, mais oui la longue. Oui si ouais, ça grille des feux rouges et tout.
Ouais c'est oui, ça, oui. C'est ça. Okay. Ça c'était notre premier spot descendre.
C'est pas sur un freeride.
Non alors je la remets du coup vu que vous êtes des merdes.
Non mais écoutez les bruits les gars.
Oups.
Si c'est 2016 déjà si c'est une vidéo FFM,
c'était il y a 6 ans.
Oh god,
il y a 6000 vues, 6700 vues.
C'est pas un event, tu dis du coup?
Non.
Ah, c'est pas la vidéo des cruisers parce que je l'adore celle-là et.
Non, ça c'est sur Sweet Home Alabama. Et ouais.
À Tretz?
Non. C'est, en vrai, c'est vraiment pas loin de là où on a skaté aujourd'hui, c'est même juste à côté en
alors,
fait.
C'est Rest?
Ouais.
Non, c'est là où on a skaté en fait, pratiquement.
Ah ouais?
C'est à la route des Crêtes.
Ah, Orumovi! Eh
oui!
Avec Marjorie, Fayabob et Lucas Boulin!
Arrête!
Et j'étais même présent en tant qu'aide, hein, assistant pour cette vidéo qui, je tiens à le dire, a remporté un concours vidéo à Lyon et qui a provoqué malheureusement une commotion cérébrale à cause d'un jet de bouteille de...
Non, un jet de skateboard.
un jet de skateboard
dans la foule, oui. En hommage au public.
T'as bien gueulé dans le micro, merci.
Eh, merci à la zone.
C'est que mon retour est pas super, du coup j'ai l'impression qu'on s'entend
mais
pas.
C'est vrai qu'on avait fait cette vidéo.
Sinon on pouvait mettre... Pardon, excuse-moi.
Non mais on me coupe, je vais me lever, c'est pas grave. Au revoir.
Ah.
Oh.
Ah.
Bon, j'ai la flemme. Vas-y, mais il y a le petit truc là, vous pouvez hop.
C'est-à-dire mettre plus fort.
Mais vous le mettez sur la piste 4 là, voilà, tu mets plus fort là-dessus ouais, et ça va être pas mal. Fort,
là, c'est qui ton pote là?
Ok, c'est bon là. Wow, what the fuck, man?
Oh man,
you piss
it's
in
crazy,
my
shit, man.
You piss in my.
Oh, who poop in the douche?
Douche bag. D'ailleurs, ça rappelle le caca à l'outdoor, ça.
Ouais, RIP, la douche de l'outdoor. Ça remonte les mauvais souvenirs.
Qui a chié dans ma douche? Qui a chié dans la douche?
Ouais, mais Ramon il a une longue histoire avec les douches, hein, finalement, parce qu'il a eu déjà un caca dans sa douche.
Mais avec
et...
les caca aussi, il a beaucoup d'histoires, je trouve. Il a une ouverture particulièrement grande du genou dans une
ouais,
douche.
Il sait où il a fait un vagin sur son genou avec la porcelaine d'une douche à Iseron.
De quoi
ouais, mais les douches d'Iseron, n'y allez jamais, ça vaut pas le coup.
Pour être plus exact, dans les douches d'Iseron, il y avait un porte-savant en porcelaine cassé. Ouais. Et sur un petit remonté de genou, en voulant bien sûr me frotter sous l'aine vers le périnée, bah j'ai complètement déchiré ce genou et voilà, on a fini à l'hôpital pour Lucas aussi, hein, parce que
ah oui,
on parle de mon genou, mais on était à l'hôpital pour Lucas qui s'était aussi fait une belle entorse, voire une fracture du poignet, je ne sais plus.
Ouais, on savait pas. Au final, j'avais abandonné clairement parce qu'il y avait beaucoup trop d'attentes aux urgences. Et du coup, je suis allé à l'hôpital et j'ai fait ah oh ouais non, j'ai la flemme.
C'était la période où Lucas avait une fracture par saison à peu près.
Voilà. Donc on supposera que c'était pas cassé.
Parce qu'il en avait déjà eu deux cette saison-ci, donc.
Ouais, c'est vrai que...
On peut refaire le corps entier avec toi, au final.
Je pense qu'on est à pas loin de 10 fractures sur tout le corps.
C'est tout mort.
Oh là là.
C'est parce qu'il aime pas le lait.
Ouais.
Et pour autant, hein, c'est quand même...
Ben, en fait, c'est que... Ouais. Ben, c'est le fait d'aller chercher la limite, hein, finalement. Je la trouve souvent. Et après, je me dis, ouais, elle était là, finalement.
La limite est à l'hôpital, au final.
Voilà.
une fois que tu arrives à l'hôpital, c'est que les limites ont été atteintes.
Ouais, donc c'est un talent, hein. Il y a des gens qui arrivent à se rapprocher de la limite et pas tomber, bah, moi je tombe. Merci, on se serre la main avec Ramon parce que voilà, on est ensemble.
Oui, nous on tombe et on se fait mal, mais on se répare plutôt bien jusqu'à présent. Ouais. Donc ouais, on reste bof, comme ça.
Ouais, puis c'est réparer la fracture, mais c'est aussi le psychologique, enfin de remonter sur le skate quand tu t'es fracassé, c'est toujours ouais.
La pose et tout là, bonne
chose. C'est toujours compliqué. Ouais. Mais on est toujours là. Ça fait 11 ans, on est là.
Et d'ailleurs, je voudrais mettre un truc là-dessus aussi. Merci les Ronins.
Ah non. Il en a parlé toute la journée.
Les Ronins, c'est tellement bien, mec. Oh là là, j'ai adoré ma session.
Bon. En tout cas, ouais, au Rue Movie, du coup, c'était une vidéo assez incroyable et improbable qu'on a fait avec un gars. En fait, son frère fait des foils. Moi, je raconte ma life et tout, sans la planche de saucisson. Voilà.
Ah, mais oui, le
saucisson.
Oh, c'est saucisson.
Bien d'en parler. Mais il faut dire quand même que ce gars, il fait des foils, ça n'a rien à voir avec le skateboard. Mais une personne qui bosse très très proche avec lui, c'est l'équipe.
Ouais, c'est grâce à l'équipe, c'est grâce à Laurent, ouais. Donc Laurent, c'est celui qui a fait les premières vidéos FFM, en fait les vraies vidéos FFM, pas les montages de Zonar qu'on faisait avec Faya. C'est lui qui les a faites, et en fait c'est Laurent qui nous a mis en contact avec ce gars d'Oru Movie qui faisait des vidéos assez pro et qui était chaud qui a vu le longboard, qui était chaud de nous faire une vidéo. Du coup on a filmé à la route des crêtes et c'était assez incroyable parce qu'il a pas du tout la vision du skate, donc on a dû lui expliquer comment ça se passait. Et genre on a fait des plans un peu à deux à l'heure où il faisait des accélérés avec, il a rajouté genre des bruitages de vitesse, ouais, en fond ça. Et du coup ça rend genre vraiment une vidéo assez incroyable qui a rien à voir avec ce qu'on faisait d'habitude, mais très drôle. Et
oui, c'est très drôle.
Et du coup elle est passée à la long skate vidéo party et on a gagné le prix du jury, du coup.
Ok.
On a gagné avec il y avait déjà Pan en fait qui nous avait fait gagner le prix, qui avait kiffé la vidéo, qui sortait un peu de l'ordinaire, parce que ça faisait un peu film, enfin ouais, voilà, ouais. Tu vois, c'était, nous on n'aurait jamais fait un truc pareil.
Spectaculaire, vraiment.
Et pour la petite histoire, du coup on a gagné une board à la long skate vidéo party que Faya a littéralement lancé dans le public et qui a assommé une meuf random.
Ah, si elle avait pas eu de visage, elle l'aurait jamais attrapé. Hein.
Donc c'était assez incroyable. Voilà, voilà pour la petite histoire. Et c'était tourné sur la route des crêtes, en fait, collé au spot qu'on a fait aujourd'hui.
Mais ouais, je fais un lien. Mais du coup, votre vidéo là sur Marseille, c'est parti sur l'équipe après aussi, ça. La vidéo où vous avez
expliqué. Ouais, l'équipe, c'est le surnom de Laurent, en fait.
Ah, non. Okay. Non, sur l'équipe, ouais. L'équipe, non.
La vidéo du col de la Ginesse.
C'est encore une autre route.
Ok, d'accord. Oui, ce que je veux dire, là-dessus, vous étiez carrément sur l'équipe, non, par rapport à ça.
Non, c'était avec Drives, la vidéo de la Réunion où on a été sur l'équipe. Et la vidéo du col de la Gineste, on a été repartagée par même Marseillais, une page Instagram très très marrante. Hein. Je vous conseille à tout le monde d'y aller. Et du coup, ça apporte presque autant de visibilité que l'équipe. Mais j'avoue, pas autant.
Ouais, puis ça a été mis dans une sorte de vidéo mix sur Marseille qu'a fait Quotidien, du coup,
ouais.
L'émission.
Ah ouais, oui, c'est vrai.
Ils ont fait genre un clip qui est incroyable, d'ailleurs, je vous invite à le voir. Franchement, il est lourd, ça montre... en fait, ils ont essayé de montrer le vrai côté de Marseille. Mm-hmm. Ils avaient envoyé un message aux magiciens qu'ils ont jamais vu, en fait.
On était en mariage, hein, aussi, je tiens à le préciser.
Et du coup, ils ont repris, sur le montage de Marseille, ils ont repris l'instru qu'avait mis Ramon dans son montage de skate, et ils ont remis les images de drone qu'avait fait Laurent, sur la Gineste et tout, parce que ça faisait un point de vue sur Marseille incroyable, du col de la Gineste.
Putain, stylé. Ouais, Quotidien, mec.
J'avais même oublié ça.
C'était des bars. Surtout qu'on n'était pas du tout au courant, en fait. On m'a envoyé un message en mode c'est vous et tout. J'étais là, je sais pas. Ah ouais.
Moi, je me réveillais difficilement de la soirée pendant laquelle j'avais reçu le message, du coup, et que je n'avais pas vu.
Mais tu l'as vu, mais t'étais.
Non, je l'avais pas ouvert. Et en fait, en me levant, j'ouvre Facebook et je tombe sur une vidéo de Quotidien qui parle de Marseille. Du coup, je clique et je nous vois dedans.
Ah ouais, à ce point, du coup, t'as dû...
Ah ouais, et en finale, on a mis genre 12 heures à capter qu'on avait reçu un message d'eux. À ce moment-là, on était juste contents en se disant, bon, ils nous ont même pas demandé, mais c'est cool, on aime bien Quotidien.
C'est qu'on était en mode, ils nous demandent rien, genre ils reprennent les vidéos comme ça et tout. Au final, il a vu qu'il y avait un message.
Et au final, je pense que si on avait répondu au message, on aurait été encore plus repartagés, comme quoi il faut répondre au message. Ne pas laisser ces putains de notifications, mais on les laisse, hein. On reste comme ça.
On est là.
Et ouais, enfin, tout ça, ça nous amène à un point. Enfin, tu vois, on a...
Transition.
Merde. Ouais, bah du coup, là, tu niques ma transition. Mais... au final, tu vois, genre, tes vidéos à Aix et tout, t'as... Enfin, au final, tous ceux qui sont autour de la table, genre, on a tous fait des vidéos, tu vois, genre, quand on était petits et tout, genre.
Ouais.
Et genre, pourquoi on fait tout ça, au final, tu vois, genre. C'est quoi le but de ces vidéos? Qu'est-ce qui nous amène à...
Bah, nous, quand on a... Enfin, depuis que je pense qu'on a genre 10 ans avec Faya, parce qu'on est des potes d'enfance, du coup. Avec nos autres potes, on a toujours fait des conneries en dehors du skate. Et on a toujours filmé. Nous, c'était, à la base, c'était plus pour les souvenirs, au final. Moi, j'avais une page YouTube que je ne citerai pas, du coup. Sur lesquelles, genre, on mettait
des... DM, je pense savoir c'est laquelle.
On mettait genre nos vidéos, toutes les conneries qu'on faisait à la gavotte, etc. Même sur FFM, il n'y a que des conneries parce qu'à la base, on se tapait des barres juste de regarder les vidéos. Et au final, c'est vrai qu'avec le skate, plus ça a commencé à monter, plus on a commencé à faire des montages. Et déjà, ça a fait des sacrés des souvenirs de ouf pour nous. Ouais, genre maintenant, quand je les regarde, je suis en mode, oh, mais what? Mais on faisait ça. Enfin, et puis ça permet, pour le skate, je trouve que ça aide de ouf à progresser aussi. Pour ça, c'est...
Est-ce que Lucas, que... toi, tu trouves que... Excuse-moi de te couper, Benji. Mais est-ce que pas... tu veux toujours faire des images pour la même chose, c'est-à-dire pour avoir des souvenirs, ou maintenant c'est une autre envie, par exemple? Parce que moi, je trouve que on fait beaucoup d'images, tu vois.
Ah ouais, vous êtes
aussi. Bah, généralement, là, on parle de tous les skateurs. On cherche tous à faire beaucoup d'images depuis qu'on a commencé, parce que c'est aussi une manière de voir notre niveau, de se voir pratiquer.
Au final, ouais.
Et aussi, c'est ça qui permet de s'améliorer dans sa pratique, tu vois. Du coup, c'est intéressant, on a un peu les doubles facettes, je pense, pour Lucas, tu vois. Peut-être au début, il faisait ça pour les souvenirs, et peut-être d'autres fois, il a fait ça pour skatement parlant, on va dire, quoi.
Bah, je trouve que...
Ou parfois les deux.
Ça fait genre, ça fait un peu... Ça fait un autre art, genre, on fait du skate, tu vois, c'est un sport, etc. Et le fait de faire des vidéos, ça le transforme un peu en art au final, parce que quand tu fais un raw run, c'est genre comme une peinture un peu. Donc je pense qu'il y a un peu ce côté-là de se dire, ok, on fait cette vidéo, on marque un peu genre le temps, en mode tu figes un peu ce que tu sais faire à ce moment-là et tu t'enregistres ça. Donc je trouve que ça développe un autre côté du skate au final. Ouais, moi j'aime bien ce côté-là. Après, je sais que je fais de moins en moins de vidéos parce que, comme tu dis, on en fait tellement maintenant que...
Après, il y a aussi le truc où je pense qu'on s'est un peu tous mis au skate grâce aux vidéos de skate aussi, et du coup, bah, ça nous a mis dedans. Genre, on fait perpétuer le truc, quoi, perdurer le truc.
Moi, du coup,
bonjour.
Je dirais, ouais. Bonjour à tous. C'est toujours à mon micro. Du coup, moi je trouve, je suis d'accord avec Lucas qu'il y a eu ce truc de l'image et du skate qui est venu après, mais je l'ai plutôt identifié après, j'ai l'impression. Et vu que j'ai commencé le skate tout seul, genre je me suis acheté ma première board tout seul en connaissant personne et juste en matant des vidéos de skate. Et du coup, vu que j'ai appris en matant des vidéos de skate, sans m'en rendre compte, j'ai commandé ma première caméra en même temps que ma première board, parce que pour moi c'était un peu indissociable. Et du coup, j'ai vu après les vidéos de Lucas et Max, du coup des FFM, je me suis dit, waouh, ils sont à Aix-en-Provence. Donc vu que j'étais petit, ça me paraissait loin à l'époque, mais c'était pas très loin non plus. Du coup, je me disais, ouais, il y a des Français, ils peuvent le faire. Et en fait, j'ai toujours eu ce truc de mater plein de vidéos comme un fanboy, et ça me semble... En fait, ça faisait partie au début de la pratique du longboard.
C'était logique, quoi. Genre, ça allait avec.
Ouais, final, pour moi, le longboard, c'était faire des vidéos de longboard plus que du longboard. Et après, se rencontrant justement Lucas, Max, les FFM, que...
Benji,
beaucoup plus tôt, d'ailleurs, parce qu'on est amis d'enfance. que j'ai découvert, même, je dirais, le skate sans la vidéo. Le fait de skater et de prendre plaisir et après de filmer ça, quoi.
Et tu te rappelles genre de ta première vidéo genre que t'as regardé du coup?
Ma...
Genre la vidéo où t'as commencé?
Oui, je m'en rappelle parfaitement en plus.
Oui.
C'est pas une vidéo de DH. La première vidéo de longboard que j'ai vue, c'est comme plein de gens, je pense, c'est... Je sais même plus le nom, mais une vidéo de Loaded qui se passe à SMR en Californie, et c'est avec un skater d'origine chinoise, Kyle Shin, je pense.
C'est Kyle Shin, ouais, c'est ça.
Et du coup, c'est mi freeride, mi DH, mi dancing, même, si je me rappelle bien. Ensuite, j'ai un peu fouillé les vidéos de Loaded à fond, et je suis tombé après sur une vidéo de Landiach où le skater c'était Mike, je sais plus comment.
Mike Fitter.
Je sais pas si c'était lui,
je sais
justement.
Pas si c'était chez Landia,
c'est
vrai.
Celui qui il avait fait une vidéo avec la 9-to-5, du coup, qui a été ma première planche, où il fallait deviner s'il était SC Rider en Switch ou en régular ou Goofy. Et du coup, la vidéo était déjà bien poussé entre guillemets pour l'époque, parce qu'ils avaient sur les mêmes plans, ils avaient fait des calques pour avoir le même gars habillé différemment, et ils prenaient les mêmes virages en même temps. Il fallait essayer de deviner. Et
d'ailleurs, ce mec, genre, il a sorti une, enfin, il a fait une interview, et genre on lui a demandé, du coup, t'es Goofy ou régulier? Il a dit yes.
Mais il est régulier, parce que du coup, vu que je suis un fanboy et que c'est ma première planche, j'ai demandé quand j'étais en Californie à Dexter et au Galmandiat pour avoir enfin cette réponse, et il est régulier. Voilà, petite info.
Moi je le savais. Hein.
Abonnez-vous à Après Sèche.
Et puis et... du coup, on a eu l'époque de Scathouse Media aussi, où en vrai ça envoyait de l'ourage 24. Il y avait des trucs improbables qui popaient tout le temps de nulle part. Et voilà.
Ouais, moi c'est vrai que c'était plus original skateboard au début. Les vidéos sans casque, yes. Carving. À l'époque, les petits pas de dancing, j'étais là waouh,
wow. J'ai envie de faire du dancing.
Alors, j'ai jamais fait de dancing quand même, j'ai fait pas mal de trucs nuls dans ma vie, mais.
De l'amour à tous nos danseurs là.
Nous sommes ensemble. Non, mais c'est vrai, moi je respecte cette discipline. Il n'y a pas de.
Plus que les
pas de jugement. Plus... clairement.
Et les lugeurs aussi.
Et c'est vrai que Kyle Chin, il y avait la vidéo Let Go là, à une époque, celle-là, elle était incroyable. Je pense que j'ai dû la voir 100 fois, et aujourd'hui, je crois qu'elle est à. Doit avoir 5 ou 6 millions de vues. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment donné envie de faire du DH en vrai. Sur le spot, je sais plus où c'est aux États-Unis, mais.
C'est SMR. SMR, ouais. Juste SMR, à côté
ouais. Ah oui, c'est ça.
De Santa Barbara. Et
cette vidéo, elle était ouf. Même la musique, la vidéo, les petits plans, enfin, il y avait tout qui était.
Ouais, vous avez pas commencé sur des vidéos de français au final, du coup. Enfin, Elton, toi,
non. Non, en vrai, moi, pareil, je dirais un peu comme Gaëtan, Skatehouse Media m'a matrixé au début. Putain, après, là, comme ça, j'ai un souvenir, ce qui a été assez révélateur, c'est quand j'ai vu une vidéo de Angie's Curve, où je me suis dit, ok.
Let's Goal.
Ouais, voilà.
Ouais, j'allais en parler. Ah, Piloni, toi.
Piloni aussi, ouais. Mais j'ai vu les deux, du coup. Et ouais, là, ça a été révélateur de fou. Je me suis dit, il y a des compètes. Ça prend une ampleur de fou. Les mecs sont en cuir et tout.
Il y a Patrice Suzer qui tombe au push aussi.
Ah oui, incroyable.
Ça, ça fait plaisir.
Non, il y avait aussi un passage de câble en fait qu'ils avaient fait.
Cette vidéo
très rigolo. Et en fait, c'était avant le V1. Et c'est-à-dire que t'arrivais à Mach 12 dedans. Et le truc, c'était à une rampe de lancement. C'est-à-dire que tu te satellisais forcément. Et il y avait juste des compilations de tous les gens qui descendaient et qui tombaient exactement à cet endroit-là. Normal en fait, parce que c'était impossible à passer, mais assez révélateur mine de rien de la folie américaine, quoi. Après y être allé à... C'est un peu ça.
Ah, c'est vrai qu'il y avait des sales crashs en plus, cette vidéo elle était incroyable.
Ah ouais.
Et puis après t'avais des mecs qui essayaient de passer en early grab, du coup ils se crashent encore plus fort.
Et pour faire un petit SO, du coup, moi les premières vidéos de skate français, donc il y a eu FFM bien sûr, il y a eu, je dois le dire, Drum Team avec Drum Zeldar Team. Et Hugo Bessé. J'avoue que ça a été la première fois que je me suis dit, il y a des gars chauds en stand-up en France. Et celle qui m'a le plus fait dérailler, c'était une vidéo de Yvon Labarthe à Confortable avec tous les Suisses, Nico Robert, Jules. Il y avait vraiment toute l'équipe.
Tous les Suisses, quoi. Ils sont
et
trois.
Et il y avait Jules qui envoyait un squat énorme. Et ça, je me rappelle, ça m'avait matrixé. La première fois que de ma vie, du coup, que j'ai skaté aux côtés de Jules, j'étais
fanboy, quoi.
J'étais comme un fanboy. Je le suis toujours parce qu'il est toujours.
On est tous fans de Jules. Non, on pourrait créer une page Facebook d'ailleurs.
Moi, j'ai un plaisir coupable dans une de ses vidéos. C'est un raw run de Nico Robert en noir et blanc, complètement au drop foot. Et la vidéo, elle est méga clean et ça m'a toujours donné envie de drop footer, mais je l'ai jamais fait. Vraiment, elle est incroyable cette vidéo.
D'accord. Ah ouais, une très belle vidéo.
Ça, c'est,
de
je pense,
Artyom,
une des vidéos qui m'a donné envie de faire du DH vraiment, d'essayer d'aller vite.
Et c'est vrai que pour reparler de Skatehouse Media, nous, je pense qu'avec FFM, c'est un peu. Enfin, on a carrément surfé sur la vague en fait, parce qu'au moment où on a commencé à savoir skater plus ou moins bien, il y avait la Skatehouse en parallèle, et du coup, clairement, avec FFM, on essayait de refaire un peu le même bail en France, d'avoir ces vidéos. On filmait surtout des events, mais c'était un peu le même délire avec. Mm-hmm. Eux, ils avaient l'intro avec la télé, nous on avait les singes qui s'enculent, mais
ouais.
C'était c'était l'idée.
Mais ouais, moi aussi, parce que je suis aussi là, tu vois. Genre.
Salut Benji.
Hey.
Mais vous êtes qui?
Moi c'était vraiment les vidéos de. Bah en vrai j'ai commencé direct à Tahiti en soi, et il y avait déjà une mini communauté, tu vois. Et il y avait des justement il y avait Blin Blin que vous connaissez, Yvan la Balette,
Alexandre Lavalette et
Yann, Yann la Valette,
les deux frérots que Gaëtan et moi avons rencontrés quand on était quand on débutait le skate, comme quoi le monde est petit.
Et ouais, et en vrai eux les, du coup c'était un groupe, c'était les Zen, mais qu'ils ont vu des trucs genre vraiment c'était hardcore, tu vois, genre vraiment pour l'époque et tout, c'était des folies de power slide de 30 mètres en 2014, tu vois, genre vraiment.
Yann faisait des Roman Candle à Valcroix en 2013.
Voilà, on remet les choses en place. Voilà,
c'est tout le monde se calme.
Ces personnes sont des OG qui maintenant ne font plus de skate et qui font de la très bonne cuisine. Si un jour tu écoutes ça, Yann, bon, je pense que tu écouteras du coup.
J'espère.
C'est des G, ces deux personnes là, et Tahiti, ça donne envie de découvrir cette communauté parce que c'est incroyable comme ils étaient chauds à l'époque, ouais, et vraiment dans leur coin. Et ouais, en plus, ils sont trop cool. Donc, voilà. Si vous voulez aller à Tahiti faire du skate, allez-y.
Et du coup, je vais peut-être un peu plomber l'ambiance, mais j'avais envie d'en parler. C'est un mec de Zen qui. J'avais envie de le SO parce que, je sais pas, bref, on verra. Mais au final, c'est vraiment c'était un bon gars. Et puis voilà.
Et t'as fait grave de vidéos avec lui, du coup, avec.
Pas tant, en vrai. Non. C'était un pote vraiment avec. Enfin, c'était un pote, tu vois, avec qui on traînait et tout. Et puis, ouais, c'était le mec, gros. Il faisait des Chovit, Power Slide Chovit 3-6, mec, voilà, en 2013-2014, tu vois. Genre, c'était vraiment le boss de l'époque. Et en vrai, même.
Et les vidéos sur YouTube, c'était Woody Media, c'est ça?
Ah non, ça, c'était moi, ça.
Oui.
C'était Woody Production, moi.
Woody Production.
Production.
Parce qu'il a mis des vieux extraits de nos vidéos, mais. Allez voir Woody Production, s'il vous plaît.
On n'en parle pas de ça.
Et ouais, bon, des 800 vues sur ma part, mon gars. On dirait que je suis mort au début, tu vois. La première vidéo de moi qu'il y a sur la chaîne, où genre on présentait un peu tous les riders qu'il y avait dans le crew, mec. Au début, mec, t'as une musique triste et tout en noir et blanc. Je mets mes roues, mec, on dirait que je suis mort. Oh, c'est trop triste.
Ça a pas toujours été facile, hein, les montages.
Ah, on a tous des montages douteux qui voilà. Datent de l'époque. Hein.
Et comment vous faites là, on parle un peu mais technique, mais en vrai, tu vois, quand tu. Je rebondis sur. Je rebondis sur l'ancien podcast où, genre, justement, les Suisses de Geneva Longboard, ils ont fait des vidéos pour les OV Trip où ils avaient 250 gigas de vidéos, tu vois. Mais au final, ils sont pas déter pour retrouver et faire un montage, tu vois, genre. Et comment tu fais pour être carré dans ce que t'enregistres, etc., tu vois, genre. Ça, c'est hyper important, au final, tu vois, que t'arrives devant ton PC, tu dis, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que...
Alors déjà, petite info, je compte faire une fois une vidéo tutoriel de...
Ça fait 2 ans qu'il en parle.
De comment gérer ça. C'est vrai. Non, mais ça fait 2 ans, mais ça va, ça avance. Mais du coup, c'est une vraie organisation, en vrai. Et je pense que le meilleur moyen de le gérer, c'est faire des trips et se forcer à aller au bout de faire la vidéo. Parce que t'apprendras jamais à le faire si une fois tu gères pas les 250 gigas. Et du coup, on a vécu ça pour le trip à La Réunion. Donc, c'est la seule vidéo qui est sortie où on devait avoir genre 500 gigas de plans. Et ensuite, ça va venir pour la vidéo de la Norvège qui devrait arriver bientôt. Où il y avait à peu près pareil, 300 gigas, ensuite l'Afrique du Sud.
Oh, l'Afrique du Sud, on est bien sûr 400 gigas aussi, quoi.
Oh là là, mais mec, ouais, du coup, comment tu gères tout ça? C'est 400 gigas de.
Et bien, pour gérer ça, on fait comme à l'école, il faut faire un petit tableau Excel avec chaque endroit, chaque type de plan que tu as environ de l'endroit. Donc, par exemple, tu dis un endroit, si tu as des. Rorun, tu nommes les Rorun, si t'as des plans arrêtés, tu les nommes dans un petit tableau Excel et après tu te fais un petit code couleur pour dire qu'est-ce qui va où parce que.
Mais tu fais ça tous les soirs du coup?
Non, en général, je le crée en milieu de trip et je commence à remplir. Là par exemple, celui pour la Californie n'est pas du tout rempli. Il y a peut-être 3 semaines de Californie où les choses sont un peu décidées de où ça ira. Et si c'est dans un edit final. Et après, il y a une idée. Au bout d'un moment, tu peux avoir une idée très précise et de comment monter une vidéo. Et puis, du coup, en fonction de cette idée, tu vas commencer à organiser ce que tu as. Et en fait, c'est méga empirique. Genre, au bout d'un moment, tu dis, ça, de sûr, ça ira à tel endroit. Donc, ou pour un rerun simple, ou pour vraiment un edit de vidéo. Après, tu te dis. Et du coup, en fait, au fur et à mesure que tu vas te poser des barrières. Genre, je vais mettre ça dans la vidéo principale, je vais mettre ça ailleurs. bah ça se décante, mais ouais, il faut regarder tout et un peu laisser les idées venir. Et...
C'est vrai que c'est hyper chronophage en vrai, c'est la pire partie du montage au final. Alors tu peux, enfin, c'est comme ça que t'en viens. Nous, on a déjà abandonné aussi des edits parce qu'au bout d'un moment t'en peux plus. Mais
ouais.
C'est vrai que le mieux, je pense, si on travaillait bien, c'est d'avoir un storyboard avant. De quand Ramon il fait des vidéos vraiment travaillées et qu'il a un storyboard, là c'est beaucoup plus simple, c'est parce que tu sais les vidéos que tu veux sélectionner.
Tu sais
où et là
tu
gagnes un temps. Mais un trip, c'est t'as que de la merde dans tous les sens. Au final, c'est vrai que l'idée déjà de renommer les fichiers en vrai, de les appeler genre. Run Ramon dans la forêt, Run Benji, machin. Déjà, quand t'es dans les dossiers, c'est un peu mieux. Moi, je sais que je crée souvent plusieurs timelines où je coupe les différentes vidéos un peu en séparé. Après, je vais les chercher quand je veux. Et à un moment, ça m'arrivait sur la vidéo des FFM, là où j'ai fait le résumé, qui est genre 10 ans de vidéos résumées en 8 minutes. Et, genre, c'était horrible à faire. Et du coup, genre, j'avais des couleurs. Genre, pour les clips où c'est du crash, je les mettais en rouge. Les clips où c'est des slides, je les mettais en vert. Et du coup, je sais dans l'edit, quand je veux aller chercher genre un slide, je vais chercher ma couleur, je l'intègre. Je pense qu'il faut se créer des astuces comme ça, sinon tu deviens ouf.
Faut délimiter en fait, faut essayer de créer beaucoup de contraintes au cahier des charges pour faire en sorte que tes séquences soient très réduites et que du coup, tout ce qui est le traitement de tes fichiers et tout, ça soit assez linéaire. Après, le souci, c'est que moi et Ramon, on est dans une démarche, ce qu'on peut appeler des prises de vue de reportage, c'est-à-dire que on filme en fait de l'action, de ce qui se passe. On n'est pas sous storyboard, on n'est pas écrit, même si on a des axes qu'on aimerait bien traiter évidemment à chaque voyage, tu vois. Et du coup, ça crée une autre contrainte dans ce qui est très compliqué de tri de tout ça. Mais la pré-prod, comme il disait Lucas, aide beaucoup de déjà imaginer sa vidéo en amont et d'essayer de jouer au mieux avec les cartes que tu as. Mais il faut jouer avec, faut pas qu'elle traîne dans un disque dur, quoi.
Et comment vous faites pour... parce que là, vous êtes deux sur les magiciens. Comment vous faites pour vous gérer le travail et tout? Genre, il y en a un... C'est selon les vidéos et selon ce que t'as qui fait que toi, tu vas faire le montage ou...
Bah là, les choses ont fait que la majorité des trips, c'est moi qui les ai fait tout seul. Du coup, en général, on travaille à deux, mais... Bah justement, comme on disait, trier les vidéos, c'est le moment le plus compliqué, le plus chronophage. Et du coup, si jamais tu as vécu la chose, c'est quand même beaucoup plus facile de faire tout ce truc. Donc là, c'est plus moi qui m'en occupe. Après, quand on a eu des productions qu'on faisait à deux, là, on pouvait faire tout ce travail de pré-prod. Donc c'est parfait. On peut directement travailler sur les trucs qu'on s'est dit de base.
Comme en Afrique du Sud, par exemple.
Ouais, exactement. Et puis après, comment se répartit le boulot, on a un drive, on en discute, on écrit sur des trucs, et puis après on fait en fonction du temps disponible. Et voilà. Mais ouais, sinon c'est ça, on se crée des tableaux et on met des to-do list. Okay. En fait, tout n'est que to-do list.
La vie n'est que to-do list.
De fou.
Mec, c'est la deuxième fois que tu cites des trucs de fou, toi. T'as fait les rawruns, c'est des peintures, et la vie est une to-do list. C'est magnifique, mec, franchement.
J'écris d'ailleurs un bouquin, si vous pouvez aller le voir, il est bientôt en librairie.
En audible sur Amazon Prime. Et le fait de... Comment vous faites pour gérer les riders un peu, tu vois, genre sur les vidéos? Est-ce que tu leur dis genre en mode ouais, faut que tu fasses ça, ou alors t'es plus en mode flow et tu t'adaptes à lui, ou genre c'est...
Je vais prendre le relais. En fait, ça dépend vraiment de la demande et du sujet qu'on va filmer. C'est-à-dire que déjà, nous, de base, on n'a jamais comme but d'imposer à quiconque notre projet, c'est-à-dire qu'on va jamais forcer quelqu'un à faire des images de lui, on va jamais forcer tout ça, on va toujours faire en sorte qu'il soit d'accord d'être filmé et qu'il n'y ait aucun problème avec ça et que ça ne soit pas au-delà de ses limites.
Ouais, les droits à l'image, tout ça.
Ouais, c'est ça, et du coup, en fait, c'est un peu un travail d'équipe dans le sens les riders mettent leur pierre à l'édifice dans ce qu'on veut faire et nous, on met aussi une pierre à l'édifice dans ce qu'il veut faire, c'est-à-dire qu'on essaye au maximum de faciliter les runs, de rendre la pratique du skate. Assez primaire pour pas qu'on perde du temps avec tout ce qui est vidéo, même si c'est pas une perte de temps toi-même, tu sais. Mais on essaye de faire en sorte ça, et eux, ils nous le rendent vachement, c'est-à-dire qu'ils sont assez Bah, c'est-à-dire qu'ils sont assez à notre écoute, ils sont prêts à faire plein de choses pour nous, à faire des remontées à pied.
Ouais, en soi, aussi, le fait de qu'on ait tous déjà fait des vidéos, est-ce que ça aide aussi, du coup, cet aspect-là de...
Ouais, exactement. Ouais. C'est, comme tu le disais au début, on a tous, je pense, même internationalement, été bercés par des vidéos pour le longboard. Du coup, tout le monde a une idée plus ou moins large de ce que ça représente et tout le monde joue le jeu. Franchement, on a eu... majoritairement des très bons retours de gens et une aide précieuse, parce que sans eux on peut rien faire, quoi.
Moi, pour compléter un peu le truc qu'a dit Elton et qui est totalement ça, je dirais qu'en gros il y a deux types de situations. Il y en a une où on connaît le skater personnellement, parce que c'est vrai que la majorité du temps on a filmé des gars comme Lucas, des gars comme Yanis, des gars comme Gaëtan, des gens comme Diego, bref, qu'on connaît personnellement, et on va savoir, on les connaît et on sait comment ils voient la vidéo. Donc pour certains, ça va plutôt leur donner un coup de boost. On va dire par exemple Lucas, tu peux être sûr que quand tu le filmes, même si on s'est regardé droit dans les yeux en se disant on le fait chill, la vidéo, tu sais qu'elle va lui mettre un coup de pied au cul quoi qu'il arrive. Du coup, Lucas, ça va être plutôt quelqu'un qu'on va dire oui, on le fait tranquille. Voilà, on pousse pas trop, parce que le principal, c'est que en faisant de la vidéo, on sait que ça pousse les riders à faire, vouloir être beau, parce que t'immortalise quelque chose. Et du coup, le pire truc, c'est quelqu'un. Enfin, moi, le pire sentiment que j'ai, c'est quand quelqu'un tombe devant ma caméra, parce que j'ai l'impression d'être un peu coupable.
Initiateur.
Et du coup, je cherche grave à gérer ce truc de. Enfin, on cherche avec Elton, je pense, de surtout que les gens se blessent pas, se poussent pas trop loin, parce que déjà c'est pas beau à filmer, que tout le monde le sache. Ce qui est beau, c'est quand t'es dans ta zone de confort, et parce que on n'a pas envie d'être responsable de quelqu'un qui se blesse. Et du coup, il y a la situation où tu connais la personne, tu vas le gérer en fonction de s'il va plutôt s'envoyer ou moins s'envoyer quand il y a la caméra. Et après, il y a la situation où tu te retrouves avec des gens que des fois ça nous est arrivé, on a filmé des gens, on les avait rencontrés dans la journée ou... Et du coup, il y a un peu ce petit truc de comment ils vont s'en sortir, est-ce qu'ils vont faire les fous, nous on n'a pas envie qu'ils fassent les fous. Et donc en général, je pense dans ce cas-là, on est plutôt sécuritaire, en mode fais ce que tu veux, ne pense pas à moi, s'il y a un moment où on te dérange, tu nous fais un signe, on dégage.
C'est bon, quoi le signe?
Oh, ça dépend.
C'est comme ça. C'est...
Gaëtan, t'es d'accord ou pas?
Des bruits d'oiseaux.
Gaëtan, t'es d'accord?
Moi, je trouve qu'on a un peu abusé de moi, surtout pour des réveils, surtout des vidéos en soirée. Je trouve qu'on a pas mal violé mon image. Donc, je suis pas forcément méga d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Y a des trucs qui sont sortis, j'aurais pas aimé les revoir.
Mais toi, je crois qu'il y a plus de vidéos de toi en train de boire des bières alors que t'as pas l'âge que de podium, au final.
Ça, c'est hyper bâtard.
Voilà. Non, mais ça c'est fait. Ça, c'est fait.
Au 136, ça tire
à balle réelle.
Papa.
Là, je pense que
je tiens à dire que Gaëtan, malgré tout ce qu'on dit sur sa motivation, ça doit quand même être la personne que j'ai le plus filmé de toute ma vie. Même Lucas, quoi qu'avec Lucas,
ça se vaut.
Parce que Gaëtan, ça commence quand il a 14 ou 13 ans même. Les premières vidéos que j'ai filmées de Gaëtan, c'est des.
Il était pas consentant.
Roran Alespi et tout.
Ouais, le Roran Alespi qui l'a un peu fait rentrer dans la Team Black Ross. Quand on allait à Cavalère, etc. Et...
Non, parce que surtout que Benji, les seules photos qu'il a sur des podiums, il est speaker, donc bon. Ça devient chaud 136.
Ça s'échauffe. Et pour revenir là sur Ramon qui parlait de l'engagement en vidéo, c'est vrai que ça donne envie aux riders en fait de s'engager, parce que en fait t'as envie de faire un truc ouf. Et ça rejoint un peu le côté compétition pour moi, c'est que quand on fait des vidéos, en fait tu vas te pousser, il vient de dire l'inverse, mais en dehors de ta zone de confort pour faire un truc vraiment vraiment cool. Et du coup, je trouve il y a cet aspect là qui est cool de la vidéo, c'est de se pousser un peu en dehors de ses retranchements, et ça rajoute un peu de piment au sport au final. C'est pas juste, même si c'est une grosse partie du skate, descendre avec ses potes et kiffer ensemble, il y a aussi le fait de pousser la limite, et c'est vrai que la vidéo, ça t'oblige un peu à faire des trucs stylés, à sortir un squat là où si t'étais avec tes potes, t'aurais posé la main en mode c'est bon, chill, tu vois. Donc il y a un peu cet aspect-là de faire le max au final sur les vidéos. Et bon, des fois, soit ça crée des chutes et au final Ramon il les utilise tous et il est très content, ou soit ça, ça fait des vidéos stylées.
Mais comme tu le disais, c'est un peu un écho au final, ça reste, on a envie d'avoir un souvenir de sa performance, tu vois. Comme tu disais, t'es sous la, tu sais que tu vas être filmé, t'as envie d'avoir le meilleur souvenir de toi sur ton skate, quoi. Du coup, tu vas peut-être tenter, comme tu disais, des petites folies,
de toute façon,
des petites choses.
On a tous été deg en regardant un run en mode ah ouais, il est claqué au sol.
Quand t'essaies d'en faire trop et que c'est dégueulasse,
t'es deg.
Moi, je vis en tant que skater, je dirais, je vis les runs un peu comme des chronos. Dans le sens où c'est presque les seuls runs souvent où tu te retrouves tout seul face à toi-même à faire ton skate. En général, enfin, on va dire 99% du temps, le spot est sécurisé pour les voitures. Du coup, tu es un peu avec toi-même en train de faire ton run. Et ça me fait penser aux chronos en compétition. Et comme ouais. Pour les chronos en compétition, le fait de se retrouver tout seul, des fois, ça te pousse à t'envoyer un peu trop et à faire de la merde. Et c'est pareil pour les raw runs. Enfin, le mieux est de rester dans ce que tu sais faire, parce que ce que tu sais faire, tu le fais en général mieux que ce que tu sais pas encore faire.
Ouais, bah c'est que tu te concentres. En fait, tu te concentres rarement uniquement sur ta performance, parce que quand on fait des runs ensemble, au final, t'es avec les autres, tu gères les autres, etc. Donc l'exercice du raw run et des chronos, c'est un truc qu'on fait rarement au final. Donc c'est vrai que tu te retrouves d'un coup sans repère à te pousser.
T'as ton but au final, genre.
Ouais. Donc c'est vachement différent. Ouais. C'est une autre partie du skate au final. Ouais.
Et le seul truc différent entre les rerun et les chronos, c'est que il y a quand même un partage de fou, je trouve, avec la personne qui filme le rerun, parce que c'est vrai que c'est quand même, je pense, très très unique à notre sport d'avoir une manière de filmer qui, au final, une manière qui au cinéma, c'est il faut engager des conducteurs spécialisés, il faut un matos. Enfin, c'est un gros risque, c'est des cascades.
C'est ça,
et
il y a une prise de risque du filmeur.
J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis et sur le fait de. Bah, à Marchaux, il y avait le mec qui faisait des drones, tu vois, et qui filmait des drones, enfin, qui filmait des riders. Et genre, quand il était en bas, il était avec le groupe de riders et en disant, mec, putain, ce run c'était trop bien et tout, tu vois. Genre, il faisait vraiment partie intégrante du run que tout le monde a fait ensemble, tu vois.
C'était hyper immersif son truc aussi.
De fou, de fou.
Les lunettes, là.
Même lui, tu vois, il était vraiment dans son truc avec les lunettes et tout, voilà, c'est ça. Et c'était. En vrai, c'était grave stylé à voir, même. Genre, le
bah,
smile
ça,
qu'il
ça
avait en bas, le smile qu'il avait en bas, tu vois. Genre, c'était
c'est un peu genre un jeu vidéo dans la vie réelle, tu sais. Tu fais du longboard. Ouais.
Mais la dernière fois que j'ai ressenti ça, et ça arrive souvent, c'est quand tu filmes des raw runs. De potes ou pas de potes, mais qu'il est tout seul sur le raw run et toi t'es tout seul à le filmer. Il y a un truc quand t'arrives à la quand la personne en est contente et toi t'es content de comment tu l'as filmé, bah tu partages un truc qui normalement il est pas partagé, vu que comme on disait, tu fais ta performance tout seul. C'est un peu comme si au final tu faisais ton chrono, donc il y a que toi qui compte, il y a que ta performance qui compte, mais qu'à la fin, tu as un collègue qui peut venir « Oh, j'ai vu tout ce que tu as fait », alors qu'il n'était pas là, et ça crée, ça crée un lien.
C'est un gros boulot, enfin, on n'en parle pas beaucoup, mais au final, on regarde le raw run et on voit le skater, mais au final, Ramon et les magiciens Elton, c'est, leur boulot, c'est de réussir à transformer genre, ta performance en image de ouf.
Et Lucas est très chaud à ça, hein, parce qu'il filme beaucoup de raw run pour les magiciens, il faut le dire.
C'est chaud. Hein. C'est quand t'arrives en bas et que tu sais que genre sur le toe side de port, t'as eu le bon angle de vue, que t'avais la caisse qui était bien, que t'as envoyé un petit frein à main qu'elle a glissé, et tu te dis ok, j'étais là. Et même sur, on parle des raw run, mais même sur les plans arrêtés, etc. Genre, il y a une manière de filmer, il y a un œil à avoir, et si le caméraman il est pas là au bon moment, il arrivera jamais à retranscrire genre ce qui s'est vraiment passé. Donc
Mais est-ce que
disent les Jones, SO tous les magiciens.
Moi, pour rebondir sur les raw run, le fait que tu partages vraiment le run malgré que tu sois en train de conduire. Enfin, en tout cas pour ma part, je trouve que quand tu fais un raw run ou que quand quelqu'un te filme un raw run, tu lui donnes grave ta confiance en mode le mec il est quand même dans une voiture derrière toi, il va te coller au cul pendant tout le long. Ouais, et du coup, finalement, t'as un peu le même lien que quand tu fais un run paquet avec un pote où t'as fait des actions tight et tu t'es touché, tu vois.
Ouais.
Là, c'est pareil, genre t'as une voiture qui te colle au cul et puis, genre à la fin, t'as juste vécu le même run et t'as vécu la même chose, quoi.
Mm-hmm. Ouais, c'est ça, ça peut rapprocher, ça permet à deux riders de se rapprocher sans faire un run ensemble, bizarrement, quoi. Moi, j'ai le souvenir de ça, par exemple, avec Diego, que je connaissais moins. Quand je suis parti en Californie, on l'a un peu rencontré sur place et j'ai eu la chance. Et la peur aussi de lui filmer un run sur un spot.
D'anthologie.
D'anthologie,
qui est incroyable.
Où voilà, j'étais en train de conduire et il y a eu un petit dérapage arrière, une petite perte de grippe en fait avec la voiture. J'ai eu le temps de voir beaucoup de choses, de repenser à mon enfance, à Nice Nord, à mes parents, tout ça. Du coup, ça a été chaud à gérer, mais j'ai réussi à reprendre la voiture. Et depuis, en fait, avec Diego, ça a ajouté un petit piment dans notre relation où on aime se le rappeler et que c'était un moment qu'on a vécu à deux assez particulier, quoi. Mais je tiens à le rappeler, ce n'est pas ça qu'on cherche à faire avec les magiciens. On sera tout aussi heureux si on filme un run parfaitement safe pour le rider et pour la voiture, quoi.
Si vous voulez vous faire des amis, essayez de les écraser dans la rue, ça crée des liens.
Ça crée des liens.
Non, on tient à préciser que Elton a failli se crasher tout seul. Et Diego
comme un grand.
A toujours été safe.
En pleine autonomie.
Jamais. Ouais. On n'a jamais eu de problème par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'on, des fois, on vit des actions. Qui rappelle tout ça et j'espère qu'on ne l'oubliera jamais parce que
ça remet les idées en place.
Chaque fois, le rider nous donne sa confiance et nous on lui donne notre confiance aussi parce que si le rider se décide de vouloir faire n'importe quoi parce que c'est la vidéo, il peut se retrouver sous tes roues alors que toi t'auras été très safe.
Je pense qu'on est pareil, hein, Ramon et moi, c'est qu'on est plus stressé, je pense, à filmer un raw run qu'à le skater au final.
Ouais, puis même pour bien skater, il faut vraiment que tu sois à l'aise avec la personne qui conduit. Moi, je sais que par exemple, quand on filme des raw runs, il faut que ce soit un mec que je connais, que je sais qu'il conduit bien les raw runs. J'ai pas envie d'avoir un mec qui fait de la merde derrière moi. Comme quand on avait fait la pub, j'avais dit, c'est mort, c'est mon pote dans la voiture. J'ai pas envie que ce soit un mec qui découvre notre sport, qui se dise tiens, je vais filmer, ça a l'air rigolo, quoi.
Nous on était plutôt comme ça, mais c'est vrai que du coup les trips ont fait que on s'est retrouvé à devoir filmer des gens.
Ouais, mais après t'as quand même t'es un peu connu, tu vois, dans le truc, donc les gens savent que t'es.
Même si eux ils savent, nous on veut pas qu'ils oublient que c'est pas parce qu'on en a filmé plein que celui-là va bien se passer et que dans tous les cas. Par exemple, on a deux exemples à Majorque qu'on a fait le trip avec Lucas notamment, qui a filmé beaucoup de rerun, qu'on a fait le trip pour 981. Enfin, la vidéo trip pour 981, il y a plein de vidéos. On a eu deux moments un peu chauds où Alexandros tombe devant moi parce qu'il passe sur une plaque d'huile qui n'était pas là avant. Donc vraiment, personne n'aurait pu le prévoir. Il n'y a personne qui fait d'erreur et ça se passe bien. Mais ça se passe bien à peu de choses. Pareil sur Lucas qui filme un run à Romain, il tombe. Ça se passe bien parce que Lucas sait conduire les raw runs. Moi, je savais conduire les raw runs. Alexandros et Romain, ils ont pas fait n'importe quoi. Ils sont tombés parce que ça peut arriver. Mais ça rappelle toujours que oui, comme la
plupart
des temps, voilà, c'est.
Puis il faut quelqu'un qui a des réflexes. Enfin, genre Romain, il est tombé, j'ai genre planté le frein, tiré le frein à main, j'ai regardé où il était pour. Il a disparu sous le capot. Et j'étais en mode. Il s'est relevé, j'étais là, ok, ça part. Mais ouais, ça peut arriver en tout cas. Mm-hmm. Donc c'était Eurui Movie la vidéo, merci.
Mais d'ailleurs, c'était Longboard Paradise, moi je l'ai trouvé.
Longboard Paradise, c'est vrai, c'est Eurui Movie qui l'a filmé. Ouais. Longboard Paradise.
Et j'en reviens à ce que t'as dit tout à l'heure, que ça immortalise un peu ton niveau à l'instant T, tu vois. Mm. Et genre, du coup, t'as une base pour savoir où est-ce que t'étais à ce moment T, justement, et ça peut te pousser à aller sur le même spot et à faire un autre run, et tu vois vraiment la différence que t'as sur les deux runs,
de
quoi.
fou
et
mais
genre c'est
Ramon l'a bien dit, c'est un beau parallèle de parler des chronos, quoi. C'est-à-dire quand tu vas rentrer chez toi le soir après avoir filmé le run sur ton spot, tu vas te dire ah putain, mais attends, je peux mettre 2-3 secondes là si je fais ça, je peux bien mettre 2-3 secondes. Et en fait, plus ça va, plus les années passent, et tu te rends compte, tu peux te mettre 10 secondes, 15 secondes, tu vois. et ça c'est important, je pense. Comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois pour un souvenir personnel et à la fois pour aider à la performance, quoi.
Ouais, mais après, il y a des raw runs, je trouve, qui peuvent pas être améliorés. Enfin, je sais que moi, j'ai fait des runs, genre, Ramon, il m'avait filmé en 2015 à l'Espigoulier. Et donc, j'avais un niveau, genre, pas ouf, mais qui représentait, genre, mon niveau qui était ouf pour moi à l'époque. Mmh. Et genre, au final, ce souvenir, tu pourras pas faire mieux. Genre, l'image à ce moment-là, comment c'était filmé, etc. Il y a des trucs. Tu sais que si tu y retournes, t'arriveras pas à faire une vidéo plus emblématique au final que ce que t'as fait à ce moment-là. Donc,
il y a un peu de fou.
Est-ce que le fait que ça soit que toutes les vidéos soient plus sur YouTube et sur Insta, tu perds un peu ce truc d'immortalité, tu vois, genre, parce que au final, est-ce que sur Insta, tu vas oublier et puis tu vas pas vouloir scroller, alors que sur YouTube en soi, tu peux vite retrouver ta vidéo, tu vois.
Ouais, bah je pense qu'on a un peu perdu ça même depuis quelques temps au final, parce que l'époque où on faisait des vidéos sur YouTube et tout, c'était gravé dans le marbre un peu. Maintenant, c'est beaucoup plus volatile au final, même tout le monde zappe, et bah justement, je pense depuis quelques années, les magiciens ils ont dû s'adapter de ouf aussi à ce.
C'est ça, on évolue avec les réseaux et plus ça va, plus c'est de plus en plus de la consommation rapide, quoi. Du coup, c'est dur d'inscrire certaines vidéos dans le marbre et faire en sorte qu'elles ressortent plus. C'est-à-dire que ça ne dure pas deux semaines dans les têtes et que ça essaye de traverser plus les esprits. Du coup, après, c'est juste s'adapter à ça, jouer avec les nouvelles règles. Et je pense que maintenant, il y a des gens qui arrivent très bien à faire du média qui est exceptionnel et qui peut durer dans le temps. Et malgré, en fait, on va dire, la condition des réseaux, tout ça qui a évolué, quoi. C'est à nous, voilà, de s'adapter à tout ça, je pense.
Et justement, avec les magiciens... Bonjour. Avec les magiciens, on a tenté de faire ça, parce que même si du coup on essaie de faire vivre sur Instagram en faisant des vidéos courtes et tout ce qu'il y a pour que ça marche, je pense que 80% de ce qui sort sur Insta, c'est un preview de ce qu'on fait sur YouTube, parce qu'on veut garder le truc. Et puis après, quand on est vraiment un fanboy comme moi, on a 2 téras de disque dur avec toutes les années triées et toutes les vidéos. Et de temps en temps, je me fais des petits moments de nostalgie. D'ailleurs, comme tu disais tout à l'heure pour les runs, j'ai un petit dossier personnel où j'ai tous mes runs des Rustines, donc le home spot dont on parlait tout à l'heure, toutes les années où je l'ai fait. Donc il y en a. Enfin, des fois c'est que des runs GoPro, tu vois, mais j'ai un run par année et des fois je me mets la playlist. Ça me rappelle Starling from the Bottom, Now We're Here.
Et sur. Sur YouTube, du coup, il y a de moins en moins de vidéos comme ça, de vraies vidéos entre guillemets travaillées, tu vois. En vrai, à part vous en France, qui est-ce qu'il y a d'autre, tu vois ? Genre en France,
c'est chaud, ouais.
En France, pour moi, il y a plus de grosses.
En vrai, il y a personne. Hein. Et il y a pas grand monde, mais ça veut pas dire qu'on fait des trucs de ouf. C'est qu'il y a que nous qui se mettons encore la déterre à le faire. Mais je pensais pas, enfin moi je pensais justement qu'il y avait encore plus de trucs, mais en ayant voyagé quand même, il y a pas mal de gens qui nous disent que il y a que nous pour le moment, en tout cas, et j'espère que c'est pas définitif et c'est pas parce qu'on est super fort, sinon
je pense que les médias Instagram, chacun maintenant est capable de faire un mini montage au final. Chacun fait des vidéos pratiquement uniquement pour leurs sponsors, donc ils font tous des vidéos un peu dans leur coin. Avant, il y avait beaucoup ces crews de vidéos. Nous, avec les FFM à l'époque, où on
banana
avait notre
crew.
Ouais, voilà, il y a le banana, il y avait Upper Rooster, il y avait tout. Chacun avait son petit groupe de potes.
Le Duck Slide aussi.
Le Duck Slide, il y avait
6606.
T'inquiète pas, ça arrive.
C'est vrai qu'il y avait beaucoup cette mode. Ok, personne m'écoute.
Pardon, mais du coup, il y avait une mode.
Désolé.
Non, mais voilà, il y avait pas mal ce truc de groupe de skate, de vidéos de skate. Et c'est vrai que maintenant, ça s'est vachement individualisé, malheureusement. Mais donc, les magiciens, c'est un peu ceux qui... Ouais, ils gardent quand même cet esprit de groupe de vidéos, filmer un peu tous les skateurs. Et ce qui est pas mal, c'est que ça s'ouvre à l'international aussi. C'est qu'ils essaient d'aller... Mais ça se fait moins. Après, il y a des groupes quand même... j'ai pas de nom.
Bah, Get That. Get That.
Ouais,
de fou, Get Down. Meet Media aussi. Représenté par Scott,
il est en train de dormir.
Moi, si je dois faire des shout-out aux gens qui font encore des vidéos, on va dire de manière à l'ancienne, comme on dit, donc sur YouTube, on des vrais parts de skate avec du travail, donc bien sûr Get That, Meet Media, Red Dirt Motion, Kevin qui est des États-Unis et qui lui par contre en fait depuis que j'ai commencé le skate et qui continue d'en faire et toujours des projets plus développés, et franchement il est incroyable. Entrecouze qui n'étions que nous-mêmes à l'époque, et
que vous avez tué
dans l'œuf.
qu'on a nous-mêmes tué, qu'on a mis au monde et qu'on a tué.
Je crois que c'est l'histoire des t-shirts, ça a créé beaucoup de disparités. On les a jamais fait ces t-shirts et du coup on a tous abandonné.
Fallait faire des maillots comme les magiciens en fait.
Voilà. Non, il y a Moluve aussi, je crois. C'est Chase qui fait des vidéos aussi. Donc il y en a un petit
la
peu
ficelle,
partout.
Ouais, de fou aussi. Nous, on est allé en Afrique du Sud, on a découvert Gravity Dogs. Allez checker leurs vidéos parce que c'est vraiment très quali et tout. C'est des gars qui en font depuis très longtemps aussi, tu vois.
Ouais, j'avoue, j'avais pas découvert Gravity Dog, c'est les 100 depuis 15 ans. Et ouais, du coup, il y a aussi, gros shout-out, NCMB et NCDH. Donc NCDH, c'est ceux de North Carolina aux États-Unis. Et ils font des vidéos de dingue depuis des années. Et il y a aussi NCMB. Donc c'est North California Mountains Bombing. Et qui font des vidéos de qualité depuis super longtemps. Et gros shout-out à eux parce qu'on a filmé avec eux aux États-Unis.
Vous êtes parti aux États-Unis et tout. Et comment vous faites pour financer tout ça, tu vois? Genre comment tu fais pour avoir les fonds pour les États-Unis? Enfin, vous avez fait un trip, tu vois. Est-ce que t'arrives à...
Moi, j'ai fait des économies en travaillant d'abord. Et j'ai touché le chômage. Et
shout-out toujours chômage.
Ici, shout-out le chômage.
Shout-out to Pôle emploi qui supporte le projet, hein, tel des sponsors. Parce qu'ils le connaissent, hein, il n'y a aucun mensonge ici.
Si l'URSSAF nous écoute.
L'URSSAF nous écoute. Mais je vous ai payé quand même pas mal de choses.
Laissez-nous tranquilles maintenant.
Non, mais ouais, des économies personnelles. Enfin, pour ma part, des économies personnelles, on va dire en premier lieu. Ensuite, l'aide de Pôle emploi en France. Il n'y a que les Français qui connaissent,
merci,
désolé.
La France.
Et en dernier, on a quand même réussi à avoir des revenus un peu avec les magiciens, alors que ce soit de manière. Donc des défraiements ou du matos de skate qu'on consomme ou qu'on revend, ou alors des fois de l'argent. Et du coup, même. Gros merci à toutes les marques de skate et tous les gens dans le skate qui payent content, hein, comme le vrai travail que nous fournissons mérite d'être. Et donc ça, c'est 981, c'est Valkyrie, c'est Riptide et c'est Urethane Burners. C'est les 4 seules marques qui nous ont payé en argent. Et
ils sont racismiques aussi quand même, faut pas les oublier.
Ouais, mais c'est des roues.
Non, mais c'est un gros sujet quand même.
Ouais, du coup, c'est quand même différent de donner des choses qui valent pas cher,
ouais,
et qu'ils ont pas sûr de vendre, qu'il y ait du stock, donc et de payer des gens pour leur boulot. Et il y en a pas beaucoup qui l'ont fait dans le longboard mondial, et ils méritent d'être shout out. Du coup, Riptide, Valkyrie, Urethane Burners et 981 surtout, parce que...
Merci Nico.
Nico, il soutient justement les vidéos exactement comme on en parlait, les vraies vidéos, les vrais projets. Et...
Même les riders et les autres marques, parce que bon, on fait la blague 981 Ouiga, mais bon, au final, c'est les 100 et c'est la même équipe. On est ensemble.
Et en fait, tout ce financement, c'est dirigé vers peut-être un projet final, au final. Genre tout ce qui est...
C'est ça exactement. Nous, on communique aussi beaucoup sur les réseaux. C'est comme ça qu'on nous connaît, tu vois, et qu'on a pu se faire une belle vitrine et trouver des opportunités. Mais de base, nous, avec Ramon, l'idée des magiciens de sa création, elle date du confinement, où en fait, j'ai rejoint Ramon sur une idée déjà de base qu'il avait, c'est-à-dire de faire un film documentaire sur le skate de descente et de faire un portrait de la discipline. Et à partir de là... J'ai joint le maximum de force que je pouvais à ce projet-là, et on a décidé de créer les magiciens. Du coup, exactement, c'est tout ça, une seule et même direction. Et pour rappeler ce qu'on disait tout à l'heure, les vidéos YouTube, ils jouent beaucoup, parce que c'est une vitrine qu'on cherche à montrer, parce que notre film documentaire, ça sera un format de longue durée. Du coup, pour nous, c'est très important de raconter des histoires, de mettre en valeur tout ça. Du coup, voilà, c'est la direction, c'est de sortir ce film documentaire, hein, qui sera un peu le fruit de tous nos voyages au nom et de toutes nos rencontres autour du skate de descente.
Je pense que c'est une belle conclusion, enfin une belle conclusion, en tout cas une belle transition de notre animateur, parce que, ouais, en gros, du coup, les magiciens de base, c'est une idée donc très vague qui remonte pour moi au lycée. J'ai toujours voulu, en fait... faire un documentaire, un film, quelque chose d'un peu long qui explique comment on se retrouve là-dedans. Parce que du coup, moi personnellement, j'ai jamais eu aucun pote qui faisait du skate, j'ai jamais fait de skate, et vraiment j'ai vu des vidéos, j'ai fait du skate, j'ai rencontré des gens donc comme Lucas, Max, Gaëtan, Elton, toi Benji, et plein de gens de partout que j'aurais jamais rencontré sans ça. Et des fois, et Scott, qui est même ici là, qui est australien, qui est maintenant ici à Marseille, et que j'ai rencontré en Californie. Donc, et des fois, quand je suis tout seul, il m'est arrivé de me questionner, à me dire mais pourquoi je fais. Enfin, pourquoi on se met dans cette merde là, même quand on se blesse. Et que dans mon cas, tous mes potes d'enfance et tout ne savent pas, ils ne connaissent pas ça, le fait de se blesser, le fait de partir en trip, de dormir dans le froid, quoi, pour le plaisir et tout. Et ça m'a toujours animé. Et quand le confinement est arrivé, quand moi je m'étais mis le projet du coup de travailler, mettre de l'argent de côté et me lancer dans ça, on s'est vu avec Elton et on s'est retrouvé dans cette envie juste de raconter à tout le monde pourquoi on faisait tous ces sacrifices et essayer que les gens nous comprennent. Parce que des fois c'est vrai que les gens se demandent vraiment pourquoi on prend des risques, pourquoi on se, même à, on va dire sur un truc plus large, ouais, pourquoi on se met ces galères là parce qu'on n'a pas d'argent, on part super loin,
on dort à des endroits improbables.
Lucas, on est le meilleur exemple à notre gauche qui a fait un world tour, donc il a quand même traversé.
Ouais, on a fait des belles galères, hein. Si vous voulez, j'ai l'anecdote du couscous, elle est pas mal.
L'anecdote du couscous.
Non, mais c'est vrai que je pense que c'est important de montrer en fait tout l'à côté du skate, parce que il n'y a pas que les vidéos qu'on fait, et c'est pas juste un sport extrême où genre on a envie de mourir, parce que c'est souvent le retour qu'on a des gens. Il y a tout l'à côté du trip où on se met des galères pas possibles. Moi, quand j'ai fait le World Tour avec Lead, du coup en Europe, c'était en Autriche, du coup on cherchait un endroit où dormir, parce que tu fais des 14h, des 21h de route pour te mettre dans des galères, aller skater sous la pluie en Roumanie. Et pourquoi en fait, mais on n'a pas la réponse encore, mais et en bref, en Autriche,
on l'aura avec le documentaire,
voilà, le documentaire donnera la réponse, allez le voir.
Pourquoi on fait tout ça? Parce que on est des magiciens, justement.
Et voilà, et justement les magiciens nous poussent à faire des dingueries, et donc on cherchait un spot pour camper avec Lee dans en Autriche. On a trouvé genre une forêt, on s'installe dans la forêt, hyper glauque déjà, ça faisait hyper peur, et on commence à lancer la bouffe, je commence à faire le couscous. Et là, il y a des gardes forestiers qui arrivent, du coup, et qui viennent nous dire « Ouais, non, vous pouvez pas camper ici, c'est pas possible, barrez-vous, machin. » Ils parlaient en allemand.
Pour ajouter un petit peu de piment,
voilà,
au truc.
Voilà, on comprenait rien.
Voilà, nickel.
Et il y en a un qui arrive et qui nous sauve, en fait. Et c'est ce genre de rencontre, en fait, que t'aurais jamais fait dans ta life. Ouais. Le mec, il commence à nous dire « Ben, écoutez, si vous partez, pas de souci. Moi, j'ai ma cabane de chasseur. Je vous emmène et vous dormez là. » Du coup, on plie toute la tente, Lid, elle prend la poêle de couscous genre dans la voiture, la tente elle était genre écrasée dans le coffre, et on suit ce mec, genre il aurait pu nous violer dans la forêt.
Ah ouais.
Mais on le suit et il nous emmène genre dans sa cabane de chasseur, il nous laisse les clés, il nous fait « Ouais, il y a des bières là, il y a le schnapps de papy, t'inquiète », et il nous laisse genre sa maison. Donc ouais, enfin voilà, et on a dormi là, il y avait un lac à côté, on s'est réveillé le lendemain, on est parti, on l'a plus jamais revu. Et du coup, c'est pour ça qu'on fait ça, c'est ce genre de situation incroyable qui arriverait jamais si on faisait pas ce sport, quoi.
Mais en vrai, ça te met dans un mood où en fait tu grandis toi personnellement, tu vois, genre des trucs comme ça, genre c'est abusé, tu vois, genre
t'es un peu dans tes retranchements, quoi.
Ouais. Ah, bah là clairement en Autriche,
t'es en Autriche dans une forêt, mec, t'es en train de faire ton couscous de
tu fais confiance
conserve,
à une
là.
Personne que tu connais pas et tout, en soi,
ouais.
Enfin c'est,
ouais, tu sais, ouais, pas c'est... où tu dors, t'es
obligé
de... tu te mets dans le jus, quoi.
Je pense que moi personnellement, en tout cas, les plus gros retranchements que j'ai franchi, on va dire, par rapport au skate, c'était peut-être tout ce qui est social, parce que il y a vraiment plein de gens dans le skate, comme cette personne qui a emmené Lucas, mais il y a plein de gens qui,
d'ailleurs, shout out,
ouais, shout out à lui si jamais un jour il écoute.
Papy
ça,
Papy Schnapps aussi,
Papy Schnapps, merci.
Et
bon,
ouais, je serais jamais, oui, allé voir parler à plein de types de personnes, parce que y a plein d'a priori qu'on a tous malheureusement par rapport à plein de trucs, que ce soit
Anne.
Que ce soit vestimentaire, que ce soit façon de se comporter, et le skate crée quelque chose qui...
Une connexion, ouais, de ouf.
Qui est une connexion et qui se dit, toi, tu te mets dans la même merde que moi la même chose. Donc même si au premier abord, j'irai jamais te parler, j'irai jamais chercher à comprendre ce que t'es en train de raconter, bah là on y va. Et je pense que moi le skate, c'est ça que ça m'a appris le plus.
Ouais,
c'est...
Ouais, je suis d'accord.
Comme ça t'amène vachement ce truc de d'humain, genre en mode on s'en fout de qui est qui, genre c'est, t'es obligé d'être tolérant à mon avis quand tu commences à faire des road trips et avoir des galères, parce que bah t'as besoin de tout le monde en fait, du coup t'es pote avec tout le monde. Et en fait, ouais. Je trouve que quand tu reviens, t'es un peu grandi sur ça, sur l'ouverture, et tu vois du coup les gens qui ont pas trop voyagé dans leur vie, qui sont un peu restés dans leur zone de confort, ou qui continuent d'avoir ces a priori sur les gens et qui ont pas évolué.
Au final, tu te mets à leur place, tu vois. Genre quand toi t'étais en galère au fond de l'Autriche, etc.
Et tu vois, c'est comme Scott. Tu vois, par exemple, typiquement, nous avec le skate, ça arrivait plein de fois qu'on se fasse héberger chez des mecs qui nous connaissaient juste de par les réseaux, ou parce que on connaissait le pote du cousin, tu vois. Tu vois, là c'est pareil, Ramon il m'appelle, il me dit un gars que j'ai rencontré au States, il est australien, tu peux l'héberger. T'es en mode tu rends l'appareil direct, genre tu poses même pas de questions. T'es en mode on m'a tellement fait des fleurs comme ça, bien sûr quoi, n'importe qui est le bienvenu quoi.
Puis ça crée une connexion, enfin quand on a, du coup on a voyagé au Pérou avec Gaëtan, qui est un pays déjà qui était clairement pas prêt pour le skate de descente. Et où en fait quand tu vas skater avec des Péruviens, tu les as jamais vus de ta vie, tu fais un run et t'arrives en bas et c'est ton meilleur pote, t'es en mode le Tosa et nanani nanana. Et le soir tu te retrouves et en fait genre cette barrière, y a pas de barrière en fait dans le skate, je pense que c'est ça le truc principal. C'est
la
que
la bouteille de Slivo.
Ouais, en fait, du coup, pour la petite histoire, on a rencontré un Péruvien, on a skaté avec lui, on est devenu super pote. Le gars était sponsorisé, c'est pas du Slivo, c'est
Slivo c'est en Slovénie. Pisco,
ouais. Il était sponsorisé par une marque de Pisco. Et le matin à 9h, il m'amène une bouteille d'alcool fort au petit-déj. Il me fait voilà, c'est pour toi, c'est cadeau. Enfin, tu vois, ça devient vite la famille, genre, alors que on n'a rien à voir. Enfin, le Péruvien, il a des galères de ouf par rapport à ta petite vie de français. Mais en fait, les barrières, elles sautent direct avec le skate. Et du coup, t'arrives à avoir des échanges avec des gens vachement plus matures que ce que t'as juste dans la vie réelle, genre tu fais quel travail et tout. Là c'est plus genre t'aimes le pisco, moi aussi, ok, let's go.
Moi je me rappelle aussi au Pérou, à la fin j'avais genre 3 jours à passer à Lima parce que j'avais mal géré mes avions, j'avais voulu prendre les moins chers. J'avais 3 jours tout seul à Lima, on revenait de 1 mois de trip, donc j'avais plus une thune, j'avais pété mon téléphone au Brésil, donc j'avais aucun moyen de me repérer dans une des putains de plus grandes villes que j'ai faites. J'étais complètement du père. Au final, je me suis retrouvé à bouffer dans une famille de Péruviens que je connaissais nulle part, juste parce que la meuf, elle a vu que j'étais en galère pour bouffer. Et au final, après, je zonnais dans la ville en skate. Je croise un mec qui a un skate, je lui parle 5 minutes. Il connaissait un des gars qui était à la compète. Et du coup, j'ai fini avec des Mexicains et des Péruviens qui étaient à la compète dans un
normal.
Une espèce de cabane en bois où le mec élevait des rapaces en plein centre-ville. Et j'étais là, qu'est-ce que c'est ce bordel?
Aïe, aïe, aïe. Combat de coq et tout.
Y a pas mal d'originaux aussi dans le skate. Enfin, on a tous des profils un peu... Enfin, c'est quand même des gens qui sont assez déjà ouverts d'esprit qui font ce sport. Et du coup, tu rencontres des gens assez incroyaux.
Est-ce que de base, faudrait pas être un petit original aussi pour faire du skate comme on le fait, tu vois? Moi, je me dis...
Autour
de cette table, on est tous des sacrés zozos, quoi.
Ouais.
Coucou, 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 coucou.
Et du coup, pour conclure, ce qu'avait dit l'animateur au début de toute cette discussion, l'objectif de base des magiciens et du coup de toutes les personnes autour de la table, parce que toute personne qui est partie prenante au projet ou même qui se sent identifiée là-dedans est un magicien, c'est d'essayer de raconter tout ça, toutes ces anecdotes, tous ces moments qu'on rencontre avec des gens ou tout simplement tout seul sur nos skates ou dans des lieux qu'on connaît pas.
Je vais pas pouvoir faire de podcast après si tu les racontes tout moi derrière.
Non, le but sera d'essayer de mettre tout ça dans un documentaire. Après c'est très compliqué, mais ce sera en tout cas pour nous, j'espère, un moyen de répondre à tous ces gens qui nous demandent pourquoi on fait du skate. Parce que c'était ça l'idée de base, c'était de faire enfin, moi, j'ai toujours voulu avoir quelque chose pour quand on me dit « Mais pourquoi tu fais ça ?» Au lieu de galérer à expliquer des choses qui sont très personnelles et ancrées très profond, mais on pourra juste montrer ce film et dire ben voilà, c'est pour ça qu'on fait ça.
Je ah, pense, mais casse pas les couilles, tiens. Comment vous faites pour freiner? Allez, tiens, regarde moi ça.
On fera un QR code, donc dès qu'il y a des gens qui viennent vous emmerder, vous montrez le QR code et ça sera très simple.
Et ça fait des vues, donc partagez le QR code, allez, il sera sorti.
Et bon, pour revenir sur les originaux, au final, c'est les magiciens, hein, c'est un peu la même idée, c'est que c'est des gens qui sont passionnés, qui ont quelque chose en plus en fait à côté et qui sont bah, de ce fait plus ouverts d'esprit que la normale en fait. C'est peu importe le sport, c'est pas forcément que le skate, mais c'est tout type de passion. Il y a des gens passionnés qui vont à fond dans un truc et qui du coup se créent un à côté et qui sont un peu différents des autres quoi. C'est un peu
l'idée. Pense qu'on est juste une bande d'opportunistes qui ont eu un cadre en fait.
Et c'est sur cette magnifique phrase de Gaëtan Ricord que s'achève ce premier épisode de deux épisodes, voilà. Premier épisode des deux épisodes, et nanani nanana, de la précession. Merci à vous de l'écoute, et puis force à tous ceux qui font le retour, niquez tout, on est là ensemble. Thanks!